Séance. Et j'ai donc le plaisir d'introduire Pietro Corsi, qu'on ne devrait pas introduire, mais l'usage veut qu'on introduise quand même les gens qu'on n'a pas à introduire. Qui est sans doute parmi nous le plus international de tous les historiens des sciences, en tout cas dans cette salle, me semble-t-il. En tout cas, quelqu'un qui a une vision particulièrement panoramique de ce monde, qui en a traversé plusieurs, qui continue à en traverser plusieurs, des océans et des rues, et donc qui est désormais professeur émérite d'histoire des sciences à la faculté d'Oxford, après qui est également directeur d'études émérite à l'EHESS, après être passé par l'Italie, par la France, etc. Donc c'est avec grand plaisir que nous t'écoutons nous présenter les thématiques de l'histoire des sciences.
Merci, cher Wolf. Merci de cette invitation. J'avais promis aux amis d'expliquer pourquoi je porte cette cravate. Parce que je la porte presque jamais. Mais je la porte parce que ma cravate, c'est le symbole concret, précis, de mon grande influence sur la vie de l'espace moderne. Et c'est mon héritage, disons. Parce que quand j'ai commencé à venir ici, j'étais plus jeune, plus italien, donc j'avais toujours des cravates magnifiques comme celle-ci. Et les présidents avaient des cravates noires ou rouges, qui étaient horribles. Alors, une fois, je lui ai dit, écoute, mais est-ce que tu as eu un deuil en famille? Parce qu'il avait cette cravate noire. Donc, je vois que ma présence n'a pas été utile parce que sa cravate est énormément améliorée. Et donc, voilà un premier héritage que je laisse à cette institution célèbre. Le deuxième, parce que j'ai connu Anne Bonnefoy en cravate, et donc je voulais la saluer en cravate, que je n'apporte plus. Et ça fait 30 ans que j'ai collaboré avec Didier et Anne, parce que Didier, elle est présidente, mais Anne, c'est qu'elle bosse. Toi aussi, elle bosse. Et donc, un remerciement particulier, si tu me permets, Président, Anne. Peu de gens parmi vous ça, peuvent savoir, mais ce sont des détails entre nous. Mais c'est vrai que on avait organisé ensemble une version de la Fabrique de la Pensée, ici au Centre Mendès-France, en 96. Et Anne et le pôle Histoire des sciences de Mendès-France avait été un soutien incomparablement efficace au projet Élèves de Lamarck, auquel était associé notre ami ici présent, Pascal Duris, et d'autres collègues. On s'est réunis ici, et Patrick Matagne, bien sûr, mais Patrick, il ne voulait pas se faire reconnaître par moi ce matin, donc il échappe à mon horizon. Donc il y a des belles, moi j'ai des belles mémoires. Hein, et des belles mémoires que dans notre métier, je vais être méchant aujourd'hui, donc vous préparez-vous, que dans notre métier professionnel sont un petit peu rares. Un milieu si amical, si ouvert à donner la parole aux instances les plus différentes de notre discipline. C'est ce que l'Espace Mendès-France a fait. C'est pas pour faire l'éloge des amis, c'est un fait que je ne connais pas une autre institution, ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, une autre ville pas centrale. C'est évident, vous n'êtes pas ni Paris, ni Lyon, et quand même, vous avez mené une politique nationale, avec un certain succès, à mon avis. Et après tout, la réponse au thème qu'on m'a donné, quelle thématique pour l'histoire des sciences, la réponse est facile. Il faut simplement ouvrir les fichiers Excel des manifestations organisées par Mendès France et vous avez un choix très intéressant, très imposant des manifestations, des thèmes qui ont été abordés dans les sujets les plus différents, de la santé publique, les questions de l'environnement, l'histoire philosophique des sciences, l'histoire matérielle des sciences, disons une vastité des thèmes. Et c'est aussi la réponse, parce que vous travaillez dans un territoire et vous devez pas seulement répondre aux demandes de vos concitoyennes, Le plus souvent, la présidence et les gens qui travaillent dans un centre comme ici, c'est pas vrai qu'ils doivent écouter les gens. Ils doivent aussi solliciter les gens vers des thèmes de réflexion. Et, ils ont aussi une tâche de promouvoir une conscience de débat que parfois nos concitoyens ne savent pas même d'avoir. Mais quand on organise des choses, à un certain niveau, on trouve que les gens répondent. Et on trouve que les gens se retrouvent. Donc, ça, à mon avis, c'est le futur de l'histoire des sciences. Pas seulement Mendès France, bien sûr. Mais les activités vers... qui ne sont pas dirigées vers nous-mêmes. Ça veut dire que des activités qui... Par exemple, aux États-Unis, la Société américaine d'histoire des sciences, dans les années 80, avait organisé un projet qui, après, a été abandonné par manque de force. Mais, par exemple, ils avaient des missionnaires. Ils les appelaient missionnaires, des collègues qui allaient dans des grandes écoles supérieures américaines, dans des universités de Provence ou d'universités qui n'avaient aucun enseignement d'histoire des sciences. Et les présidents de la société appelaient les présidents de l'université et en disaient « Qu'est-ce que vous en dites si l'un de nos collègues vient faire une conférence chez vous? Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?» Et donc, si c'était la force de cette université, la faculté d'ingénierie, quelqu'un qui parlait, je ne sais pas, un Antoine Picon qui allait parler de sciences de la construction, si c'était biologie, quelqu'un qui parlait de Darwin, etc. Parce que notre public, comme vous le faites, il faut les chercher. Il faut les solliciter. Les morceaux de conversation que j'ai entendus ce matin, vers la fin, c'est-à-dire sous l'édition, etc., c'est énormément important. Les suggestions de Bernadette, qui est peut-être plus internationale que moi, je dois ajouter comme note, mais disons, note à pied des pages ou au top des pages. Mais on verra entre nous. On va vérifier nos visas dans les passeports. On va faire une édition. Il faut être actif. J'ai toujours regretté, j'ai toujours trouvé, comme Patrick le disait, que dans les librairies, c'est rarissime d'avoir des sections d'histoire des sciences, voire impossible. C'est un petit peu aussi notre faute d'un côté, comme professionnels de la discipline. C'est aussi le résultat de ce qui est inévitable. Ça veut dire que notre discipline est une myriade de disciplines, est une famille de disciplines. Les mots histoire, jasent et déclinent de façon faramineuse, et les mots science aussi. Et nous avons l'illusion qu'il y a une histoire de science, et nous pensons que, non, nous ne le pensons pas, mais disons qu'on donne l'impression que c'est facile de définir ce que c'est l'histoire des sciences. Ce n'est pas facile du tout. Nous perdons pas mal de notre temps, et ça c'est la partie sombre de mon discours, qui est peut-être due à l'âge et à la fatigue, hein, ça c'est clair. Si Patrick Matagne ce matin faisait l'éloge de TGV pour qu'il lui permettait, avec les délais, de réfléchir, et moi il m'a fait seulement dormir, donc j'ai même raté cette possibilité ultérieure de réflexion. Mais ça reste vrai que, je ne sais pas, dans les deux dernières années, pour des raisons de vie, c'est-à-dire, j'ai passé 6 mois à Madrid, puis je suis revenu pour la dernière fois, j'ai passé un semestre à Harvard, et puis je suis les séminaires à Oxford, puis je fréquente les séminaires de l'école des hautes études. Ma conclusion est, ne bougez jamais, restez chez vous, restez vraiment chez vous, ne bougez jamais. Parce que si vous bougez trop, il y a un effet d'étrangement, de straniazione, comment on dit ça? Tu connais Raphaël? Oui, de prise de distance vers soi-même aussi. Et ce qu'on voit n'est pas... moi, je ne suis pas optimiste sur ces niveaux. Ça veut dire les niveaux de notre profession. Je ne suis pas optimiste. Je trouve un renfermement dans des cercles les plus en plus étroits qui se sentent universels. Les pratiques, je généralise bien sûr, hein, ça c'est évident, mais les pratiques qui sont mises en place sont les contraires de l'universel. C'est l'ultra-local qui se propose comme universel. Et où c'est ça qu'on dit en italien « l'âne tombe » Où c'est ça qu'on voit le jeu? Et on les voit par exemple dans la politique des citations, thème déjà étudié pour les sciences dures, mais on devrait les faire même chez nous. Ça veut dire que
chaque petit groupe qui propose une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche à l'histoire des sciences, destinée à changer les destins, pas seulement de l'histoire des sciences, mais de l'humanité tout entière, ces petits groupes constituent des réseaux internationaux. Donc, vous voyez, nous sommes globales. Nous avons un collègue au Mexico, un collègue aux États-Unis. Mais si vous regardez à l'intérieur, surtout dans la langue dominante, qui est la langue anglaise, il y a un effet de provincialisme les plus et plus poussé. Et je m'explique d'une façon très, très simple. Quand j'étais jeune, je vivais dans une vraie province de tous les empires, pas seulement l'empire américain, mais l'empire européen, dans l'Italie. Je me rappelle que notre souci, donc quand j'avais 20 ans, donc ça fait 50 ans, notre problème principal, c'était de savoir qu'est-ce que ce qui était sorti dans les thèmes qui nous intéressaient au niveau mondial. Et donc, il fallait établir des stratégies pour savoir ce qui est sorti aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans les pays de l'Est. Pour les pays de l'Est, il y avait les bulletins signalétiques du CNRS. Je ne sais pas si vous l'avez jamais pratiqué. Section 522, qui faisait un registre de tous les articles publiés dans tout le monde, mais en particulier dans les pays sous la domination soviétique. Les articles étaient tous les mêmes dans les résumés. Les résumés commençaient toujours, comme Marx et Engels l'ont dit, Darwin était vraiment un capitaliste. Je crois. Et il y avait, donc on ne savait pas qu'est-ce que c'est que l'article disait, parce que les débuts c'était Marx et Engels et on ne savait pas rien. Et pour les publications américaines, on avait trouvé une stratégie très efficace. J'ai mon honneur d'avoir été parmi les 3 ou 4 jeunes qui avaient trouvé ça. Les catalogues, the catalogue of the National Library, les catalogues de la bibliothèque du Congrès américain. Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes maintenant à l'âge informatique, j'arrive dans une seconde, mais quand c'était imprimé, c'était 700 volumes, quelque chose comme ça, et il vous donnait pas seulement les titres des ouvrages, il vous donnait la date de naissance et de mort de l'auteur. Donc ça, c'était un beau début pour tracer des mineurs, des inconnus, mais il vous disait aussi toutes les bibliothèques américaines dans lesquelles l'ouvrage était. Mais ça, c'est pour les passés. Mais la Bibliothèque nationale de France, comme la Bibliothèque nationale de France, recevait tous les 3 mois la mise à jour. Et la mise à jour était mise en volume à la fin de l'année, et à la fin de 5 années, une nouvelle addition arrivait. Donc, on était là en train de voir ce qui s'est arrivé. Je me rappelle un livre publié en Union soviétique sur Geoffroy Saint-Hilaire. À travers des amis, j'ai réussi à avoir une photocopie d'une partie. Je crois que l'ami qui a fait la photocopie à Moscou a pris des risques énormes, parce que la photocopieuse était, comme vous le savez, un instrument de propagande dangereuse. Et puis, une vieille dame qui enseignait les Russes à Pise avait commencé à lire avec moi, mais traduisait en italien. Et j'ai vite compris que ce livre de Jean Saint-Hilaire était complètement inutile. Mais il fallait... C'était notre idée normale. C'était normal d'essayer de savoir qu'est-ce que ce qui est publié ici et là. Pour l'Italie, c'était bien pour l'Espagne, c'était bien pour le monde latino-américain, mais d'autres mondes étaient plus difficiles à saisir. Or, le plus que je tourne dans les mondes, le plus je note qu'aujourd'hui, qu'on peut savoir en prise directe ce qui sort, même d'inutile, même dans la République de San Marino en Italie, les gens n'ont plus aucun intérêt à faire ça. Je parle en général. Il y a une fermeture qui n'est pas seulement le résultat d'une spécialisation. Parce que la spécialisation, c'est normal. Dans l'histoire des sciences, ça fait depuis une quarantaine d'années qu'on procède de cette façon, ça veut dire que tous les 4 ou 5 ans, on propose un nouveau modèle. Les articles sont toujours écrits. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens des sciences n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ma grammaire, et dorénavant, tout va changer. Raphaël Mandressi, dans son magnifique mémoire d'auto-histoire, d'égo-histoire, pour son habilitation à diriger des recherches, a écrit des pages que je ne pourrais pas même essayer d'imiter sur ces valses de modèles qui se succèdent l'un l'autre, comme un pas à quatre, que tous les quatre ans, tous les trois ans, avec une accélération considérable. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est tout à fait positif. Ça veut dire que les gens, les collègues, continuent à mener des réflexions pointues sur des aspects différents dans une discipline qui n'existe pas, qui est étudier l'écologie aujourd'hui n'est pas étudier les médecins grecs du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des métiers complètement différents. Et donc, les méthodologies, les attitudes, les approches sont complètement différents. Il y a des sujets dans lesquels l'approche anthropologique est inévitable. J'ai cité la médecine grecque. Bien sûr, la pensée va à Lloyd, et à l'application de le grand historien de Cambridge, l'application de modules anthropologiques sur cela. Vous pourriez, bien sûr, appliquer une approche sociologique à la géométrie des Riemann, mais oui, ça va vous dire quelque chose, mais pas trop sur la géométrie des Riemann. Donc là, il faut s'engager à un autre niveau. Donc cela est bien. Les problèmes que de plus en plus ses collègues disent que rien d'autre existe et que tout ce qui a été publié jusqu'à présent n'a aucune valeur parce que supporté par une méthodologie un petit peu superficielle, primitive, arriérée. Et ça, c'est préoccupant. Le département d'histoire des sciences d'Harvard que j'ai revu, j'étais là quand j'étais jeune, les historiens des sciences qui font de l'histoire sont une minorité en train de disparaître. La majorité des élèves s'intéressent à l'environnement. Ça suffit avec l'impérialisme américain, ils disent. Donc l'Europe éliminée et on travaille sur l'Amérique latine et les États-Unis. Mais l'Europe n'existe pas. Si vous travaillez sur les techniques dans les monastères bénédictins du 8e siècle, vous, pas seulement n'existez pas, vous êtes un objet de dérision. Et ça, c'est ce qui me trouble énormément. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer? Ces refus de se confronter à ce qui existe, même dans votre sujet, dans la littérature, à une époque dans laquelle il est facilissime de trouver de l'enseignement immédiat, surtout. Les refus d'admettre que c'est vraiment ridicule de soutenir que travailler sur, je ne sais pas, une culture matérielle est supérieure ou plus productif que de travailler sur des idées, comme si les idées n'étaient pas des objets qu'on produit, qu'on vend. Hein? On fait du marché. Moi, je suis en train de travailler sur des éditions de la science allemande traduites en français pour les marchés anglais avec des entrepreneurs capitalistes français qui ouvrent de shops à Londres, à Montréal, à New York, à Melbourne pour vendre les ouvrages en français traduits de l'allemand. Qu'est-ce que c'est qu'ils vendent? Bien sûr des livres, ça c'est clair. Et les livres, jusqu'à preuve contraire, sont des objets et parfois très chers. Mais le marketing de l'objet est sur les idées. Ça veut dire, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que ce que Monsieur Machin à l'université d'Heidelberg a dit? Ce grand embryologue, voilà, on vous dit ce qu'il a fait. Donc on vend les idées. L'idée que les idées vivent dans les ciels et que les objets matériels vivent dans la nature, Marx s'y serait mis à rire et n'aurait jamais cessé de le faire. C'est souvent les idées les plus sophistiquées qui sont celles qui vendent le plus. Moi, j'écris une fois que si vous voulez, que si vous lisez un traité des théologies des années 1730 et vous le lisez attentivement, théologie anglicaine attentivement, vous savez plus sur la vie matérielle de la personne que si vous avez accès à son compte en banque. L'idée qu'il y a un monde d'idées qui soit détaché de la matérialité des échanges, c'est quelque chose d'absolument étonnant. C'est évident qu'on a fait de l'histoire des sciences convaincu qu'une idée génère une autre idée et génère une autre idée. Sur ça aussi, Marx aurait dit des choses très méchantes. Mais exclure qu'il y a des dimensions dans lesquelles l'efficacité d'une stratégie de positionnement individuel des groupes d'écoles nationales, disciplinaires, passe à travers une stratégie de présentation qui est fondée sur des arguments. Ah, ça me paraît évident. Je le trouve étonnant. Donc, je suis un petit peu pessimiste à ce niveau-là. L'optimisme, j'irai bien à la fin sur l'optimisme. Il y a une autre forme d'optimisme qui me fait vraiment, qui me soulage énormément. C'est plus mon problème. Je suis à la retraite, je termine les choses que je dois faire, je vide les tiroirs. J'ai des beaux tiroirs encore, mais disons qu'il faut les vider. Donc, ce n'est pas mon problème non plus. Donc, on a la liberté de s'exprimer, pas que je ne l'avais pas auparavant, mais disons qu'on n'a plus de devoirs institutionnels et donc on redevient des citoyens très libres. La chose qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que les stratégies des constructions des réseaux qui aiment un certain pouvoir ou une certaine hégémonie, j'ai dit pouvoir avec grande hésitation, parce que notre pouvoir est ridicule vis-à-vis des pouvoirs. Ceux qui pensent que nous avons du pouvoir ne connaissent pas les pouvoirs, donc ils ne sont pas des historiens, ni même des citoyens de notre époque. Parce que l'idée de pouvoir contrôler 4 postes de doctorants, c'est du pouvoir, c'est le pouvoir des clochards. C'est un pouvoir, mais c'est des clochards. Donc nous devons être un petit peu plus ambitieux dans nos démarches. Mais même ces niveaux-là échouent tous les temps. Parce que, heureusement, ces collègues n'ont pas les pouvoirs de prévenir les gens d'aller aux bibliothèques. Quand cette manie des ANR, des projets de recherche européennes, j'avais fait des requêtes, parce que quand je regarde, c'est un défaut, hein, c'est vraiment un grand défaut, mais quand je regarde cette... Ce planning qui dit résultat prévu dans la première 3 semaines, résultat prévu dans la 4e semaine. Moi, je ne sais pas quand je vais avoir un résultat. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Et moi, mon ANR, je l'ai eu énorme. Il s'appelle Ticket Orange à Paris pour aller à Benef. Ça, c'est mon ANR. Et pour moi, ça a été suffisant. Mais même ça n'est pas suffisant à créer des positions d'hégémonie et d'autorité. Parce qu'on ne peut pas prévenir dans le monde de jeunes qui se passionnent à des recherches, des gens qui vont prendre, eux, les flambeaux de l'histoire des sciences, parce qu'ils vont suivre leurs intérêts. Et je vous donne des exemples concrets, parce que autrement, ça semble les prêtres, quand j'étais jeune, qui disaient « il y aura une vie éternelle, rassurez-vous, etc. Et donnez-moi un petit peu de sous et on verra. » Je vous raconte l'histoire d'un collègue qui s'appelle, il a une partie de mon nom, mais comme vous allez le comprendre immédiatement, ce n'est pas ma famille. Il s'appelle Niccolò Corsi Guicciardini Salviati. Guicciardini, Guissardin, Salviati, c'est lui. Donc, vous voyez, ce n'est pas ma famille, même si Corsi est dans son nom. Niccolò, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'ombre, sur les mathématiques newtoniennes. Il a travaillé, il est un homme, disons, plutôt riche, donc il s'en fiche des positions. Il a obtenu la chaire à Milan il y a 20 jours, à l'âge de 65 ans. Il n'avait pas besoin. Il est quelqu'un de complètement étranger à toutes ces démarches, c'est sur « je t'invite, tu m'invites, tu me cites, je te cite ». Il est aujourd'hui considéré le plus grand expert de la physique et des mathématiques de Newton, et maintenant tout le monde, tous les réseaux puissants l'invitent à Stanford, à Berlin, à tous les parts, parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas un produit d'une école ou de l'autre, c'est le produit de la recherche. La recherche existe, la scholarship existe, elle existera toujours. Les gens qui feront de la recherche ont existé dans l'Union soviétique, sous les papes, partout. Ça, c'est un motif, à mon avis, de soulagement. Aussi parce que, vous voyez, pour la même chose, la même procédure que j'ai dit auparavant, ça veut dire... On peut contrôler ces systèmes de réseaux. On peut se dire l'un l'autre, magnifique, magnifique. Mais quelque part, quand quelqu'un produit un travail qui est vraiment remarquable, on le sait. On le voit. Lire, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Même quand vous avez les plus grands préjugés personnels contre quelqu'un, c'est impossible de ne pas reconnaître la valeur. La valeur, ce n'est pas une question absolue. mais quelqu'un qui développe un argument qui clairement déplace l'état de la question. Et ça existera toujours. L'idée qu'il y a des objets périmés. Et aujourd'hui, c'est facile de le dire. Mon Dieu, je suis les premiers. Il y a des soucis. Et vous, l'espace Mendes France, dans la liste de vos manifestations, combien de manifestations sur la santé, sur les risques, sur l'environnement, sur l'écologie? Ah, ce sont des thématiques très importantes qu'il faut vraiment suivre. Mais ça ne veut dire pas que quelqu'un va écrire quelque chose qui va changer les goûts, les intérêts des gens. Quand Pietro Redondi, je cite bien sûr des gens qui viennent d'une culture minoritaire, qui n'ont pas les droits d'être cités dans les hémisphères, dans les autres sphères des sociétés internationales. Pietro Redondi a écrit Galilée hérétique. À cette époque-là, c'était 82, on pensait que les études sur l'early modern étaient finies. Disons qu'il n'y avait pas plus de grand intérêt sur ces études. Et puis, bien sûr, Les Noms de la Rose d'Umberto Eco a fait pas mal de bien. Mais il y a des livres qui ont changé la donne, qui ont attiré l'intérêt sur des questions qui ne semblaient plus intéresser des gens. Et il n'y a pas de recette pour écrire un livre comme ça. Il n'y a pas. C'est pas de dire, ah, il faut... Non. Il y a une production spontanée d'une certaine façon. D'une certaine façon, hein, j'exagère pas. Il y a une production spontanée des recherches dans une pluralité des pays dans lesquels on ne parle pas seulement l'anglais ou le français, mais on parle beaucoup plus de langues. L'idée que nous sommes les seules intelligences sur cet hémisphère, sur ce monde, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Le monde est plein de gens qui travaillent, partout. Et bien sûr, c'est pas vrai qu'on partage toujours et souvent ce qu'ils font. Mais j'ai siégé dans un comité pour des postes en Italie. La quantité de jeunes Italiens entre 30 et 40 ans qui ont été partout, de la Suède à l'Australie, à Nouvelle-Zélande, qui ont travaillé, qui ont bossé, ça fait du bien au cœur. Je parle d'eux parce que, bien sûr, je les connais. Pas personnellement, je connais leur dossier. Mais j'imagine qu'il y a la même chose, on pourrait le dire, pour des collègues brésiliennes, pour des collègues mexicains. Je ne connais pas l'Uruguay, mais je connais Raphaël, ça me suffit. Donc, il y a partout une quantité de production de connaissances. Le problème, c'est souvent, dans les pays périphériques, on essaye de chanter la même chanson pour se faire remarquer. C'est inévitable, c'est humain. Mais quand même, il n'y a jamais une capacité de contrôle totale des disciplines. Les gens font, les gens étudient, les gens écrivent, les gens pensent. Les gens sont prêts à vraiment avoir des carrières très difficiles pour suivre les thèmes qui les intéressent. Rien de plus, mais rien de moins. Et ça, c'est l'effet marginal sur lequel je compte énormément. Une certaine confiance dans le fait que la scholarship a toujours vécu, elle s'est transformée, et bien sûr, énormément. La figure, même la figure de l'historienne, est probablement en train de passer et aller dans d'autres, confluer dans d'autres mesures, dans d'autres figures, s'est transformée complètement. Mais ça ne change pas la donne. Toujours dans l'histoire, des groupes ont essayé de dire « nous sommes la connaissance ». Ils n'ont jamais réussi à le faire. Ou les font par des périodes minimales. Bien sûr, si vous délimitez les mondes de plus en plus, vous devenez les plus grands experts au monde de ces microphones. Si ça vous plaît, c'est satisfaisant. Mais disons que ce n'est pas exactement ce que la recherche est. Et je reviens à la fin, parce que j'avais dit que j'étais bref. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est absolument vrai. C'est la raison pour laquelle je suis aussi confiant, c'est qu'il y a vraiment de besoin de compréhension de la part d'un public vaste et varié, auquel nous ne sommes plus capables de parler, parce que nous parlons des langues techniques de plus en plus soi-disant sophistiquées, qui ne sont pas compréhensibles parfois au-delà d'une secte d'initiés, Et on pense que le développement des langages techniques, méthodologiques, de plus en plus férus, nous garantit, je ne veux pas dire de la vérité de nos positions, mais de l'efficacité de notre claim to authority. La prolifération des modèles épistémologiques, des modèles, des modes de faire l'histoire des sciences dans les dernières années, est aussi caractérisée par le fait qu'ils ne sont jamais des modèles heuristiques, ils sont des modèles prescriptifs. Les nouveautés méthodologiques patrouillent les frontières et font si que les fidèles restent fidèles. Et en sert aussi une hiérarchie interne. Les maîtres à penser pensent, les doctorants font le travail dans les bibliothèques. J'ai mis 4 ou 5 élèves au travail. Cette idée monarchique, féodale du travail intellectuel qui a toujours existé. Et bien sûr, il y a aussi des aspects positifs dans ça. Ça veut dire que quand on enseigne aux élèves, il faut aussi les diriger. Ça, c'est évident. Mais c'est autre chose de dire aux élèves, tu travailles sur ça, ça c'est la conclusion, il faut l'approuver. C'est tout autre chose que de diriger un élève vers des thèmes. Ah ben, ça fait partie de l'enseignement, ça c'est évident. Et les professeurs, les directeurs d'études assument ces responsabilités. Donc je ne veux pas que vous compreniez mal ce que je veux dire. Il y a des aspects qui sont normaux et justes. Mais les effets d'école font si que l'histoire des sciences redevient comme elle était sous l'empire de la philosophie des sciences. Quand j'ai grandi, il fallait citer Popper, il fallait citer Lakatoche, et les articles étaient écrits pour ajouter un petit exemple pour prouver que Lakatoche avait raison, Popper peut-être non, Kuhn absolument toujours. Donc l'historienne, on demandait à l'historienne de fournir des données à la preuve d'une thèse qui n'était pas la leur. Ça, c'est l'aspect monarchique de la situation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense, à mon avis, qui pense des pensées, comme si ces pensées, c'était une... Penser, ce n'est pas tellement difficile. Tout le monde a des idées. Et tout le monde... Moi, j'ai une idée par jour. Elles sont toujours mauvaises. Et donc, l'une ou l'autre peut-être survit. Mais l'idée que c'est le système hiérarchique qui marche, et pas une communauté variée. Un vrai département d'histoire des sciences est un département dans lequel les gens font les choses d'une façon différente. Pas qu'ils font la même chose. C'est ça la richesse de nos études. La capacité d'émettre plusieurs regards, pas seulement sur les mêmes thèmes, mais sur des thèmes similaires, analogues. Dans notre cas, la production de connaissances, ou la production des techniques, ou la production des moyens industriels, ou la production des pratiques, des concepts, des façons de faire, qui demandent une connaissance soutenue, réplicable, qui demandent une structuration sociale, etc. Bon, sur ces vastes territoires de questionnements et de thèmes, eh bien, des regards croisés de gens qui viennent d'autres façons de faire, à mon avis, est toujours les bienvenus. Dire aux jeunes dans nos disciplines de lire d'autres choses, de lire... moi, je conseille toujours à mes élèves de lire E.P. Thompson, The Making of the English Working Class. Pas seulement parce que je suis un gauchiste non repenti, mais parce que c'est un livre magnifique. Dans mon expérience, j'ai appris énormément d'un livre publié en 1994 sur les grammariens latins entre 6e et 8e siècle in Asia Minor, donc dans la Turquie actuelle, les grammariennes. Et pourquoi j'avais acheté ces livres, je l'avais lu, simplement parce que l'un de mes cauchemars au lycée, c'était les grammariennes. Quand le professeur vous interrogeait en latin et vous posait la question sur Marcellinus Aurelius, quelle est sa théorie du sujet? Et donc là, on commençait à suer et il y en avait 600. Mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait ces livres intéressants. Et ces livres, sur les rôles des grammariennes dans ces villes, ils faisaient voir comment les grammariennes étaient l'interlocuteur entre les pouvoirs du gouverneur romain et la ville. Et donc, les rôles politiques de ces figures de la ville, qui s'illustraient à cause de leur énorme connaissance de la grammaire latine, Et cette connaissance permettait de monter les échelons et d'arriver au rôle de celui qui faisait les discours à l'honneur du nouveau gouverneur ou faisait les discours de l'année au gouverneur. Alors, soudainement, je crois avoir compris les rôles de toute une série de figures, des scientifiques, des naturalistes en particulier, dont nous ne comprenons plus la raison de leur présence. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils n'ont pas contribué à des choses intéressantes. Mais probablement, la question n'est pas là. C'est ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a des ailleurs. Il faut apprendre d'autres formes de connaissances historiques qu'on peut regarder les choses d'une façon différente. Je termine. Répondre aux besoins des gens, c'est un grand élément de santé. Les besoins, bien sûr, peuvent s'exprimer de façon la plus différente, mais j'ai plutôt plus confiance dans l'espace Mendes France que dans le département d'histoire des sciences d'Harvard. Merci.
En finale, un petit peu patriotique. C'était un petit peu exagéré, mais disons que... vis-à-vis à part, je veux dire.
On peut aussi passer à la pause. Hein.
Difficile d'enchaîner après cette sentence.
Merci Pietro. Je voulais t'interroger sur la pratique de la citation, parce que Patrick Tamagne en a parlé ce matin. On a parlé ce matin. Et le fait qu'un petit mot, parfois, trouver son lecteur très, très loin dans le temps. Et tu t'es beaucoup intéressé dans tes recherches à ces citations cryptées, revendiquées, la signification qu'elles pouvaient avoir. Et aujourd'hui, on a évoqué les questions d'édition électronique. Pascal Duris rappelait avec beaucoup d'ironie que les étudiants n'achetaient plus de livres. Mais dans un milieu qui est aussi soumis à une logique productiviste intense, consulter un livre, souvent, n'est pas le lire. Et le citer ne signifie souvent rien. Donc je voulais savoir quelle analyse tu faisais de ces usages divers de la pratique de la citation hier et aujourd'hui dans ton travail.
Vaste question.
À la fois de chercheur et d'encadrant aussi.
Sur la question des livres, j'étais ici quand Pascal a fait sa remarque qui m'a fait beaucoup réfléchir. Quand j'étais jeune, c'était rare pour moi d'acheter des livres, ils coûtaient trop cher. Donc, quand c'était possible, on les volait, mais c'était de plus en plus dangereux. Et ça s'appelait expropriation prolétaire. Je ne suis pas convaincu que c'était un acte moral, mais disons que ça, c'était une description du temps, ce n'est pas une prescription. Les élèves ont toujours utilisé les textes d'une façon opportuniste. Et donc la lecture est toujours difficile à saisir. Ça veut dire que je reste plutôt convaincu qu'en dépit de tout, l'Internet permet l'accès à une quantité d'informations énorme, même à des gens qui vivent dans des mondes complètement éloignés. Quand j'étais enfant dans cette ville sur les montagnes du centre de l'Italie, j'aurais aimé avoir l'Internet. L'idée de dire mais l'Internet c'est plein de conneries, les librairies aussi. Donc, c'est pas vrai. Et si les gens ne s'habituent pas au goût de l'information et apprendre à travers l'école, on espère, mais aussi à travers leur propre expérience, à mettre en doute ce qu'ils lisent, on ne va aucune part. Donc, je n'espère pas du futur du livre non plus. Parce que je crois que, notre ami peut le dire, produire des livres était toujours un métier abominable, d'une difficulté énorme. Ce n'est pas une nouveauté pour des raisons différentes. Donc c'est un métier à risque, c'est un métier très difficile. L'idée que l'Internet va tuer les livres, dans certains cas, l'Internet donne une publicité à des livres qui aurait été impensable. y a des stratégies que pas mal des maisons d'édition, des groupes disciplinaires mettent en place pour faire moitié-moitié, pour inciter. Par exemple, j'ai découvert à Harvard qu'on peut faire les PDF de tous les livres qui viennent de sortir. Donc j'ai prouvé à la bibliothèque et j'ai passé 6 mois pratiquement à faire rien d'autre, à faire des PDF. C'est ce que j'appelle la politique du chômeau. Quand on trouve de l'eau, on boit et on met à côté. Et parce que les grandes bibliothèques universitaires américaines ont passé des accords avec les maisons d'édition et ils payent une certaine quantité d'argent. Et les gens qui vont à la bibliothèque, donc ils doivent avoir les permis, etc., mais peuvent accéder aux livres. Et les livres circulent et probablement l'éditeur obtient une rétribution qu'il n'aurait jamais eue quand j'étais jeune, parce que ou je l'ai piqué, ou, ou j'ai honte, mais c'est la vérité, ou je faisais des photocopies. Tu évoquais la question des citations. Et c'est une dimension de notre travail qui est très difficile. Ça veut dire, c'est le moment où on s'interroge sur les silences des sources, par exemple, les cryptocitations. Et c'est un travail de détective, c'est un travail comme dans les noirs, c'est un classique des noirs, de trouver des traces d'un passage, d'une présence à travers un verbe qui ne devrait pas être là, un paragraphe qui n'est pas clair. Ce que je disais, c'était pas, tu as donné l'interprétation, étant un bon et vieux ami bénévole de ce que je disais une chose beaucoup plus vulgaire, ça veut dire que vous savez que dans les citation index, on paraît seulement si on paraît dans les textes et pas dans les notes. Donc, on cite dans les notes ceux qui ont fait descendre, et on cite dans les textes ce qu'on veut promouvoir. Ça ne marche plus non plus comme ça. Mais ce sont des pratiques, à mon avis, détériores. Mais il est vrai que je viens de donner encore un rendu sur un livre, par ailleurs, publié par un collègue très capable, très estimable, sur le, que je suis sûr Bernadette connaît, sur la chimie des poisons, poisons des vipères. Et les poisons des vipères, jusqu'à une autre pratique autre à moi, Levi Montalcini, qui avait trouvé le nerve growth factor en étudiant les vipères, le sérum des vipères et l'effet du sérum des vipères sur le système nerveux. Il n'y a aucun ouvrage en bibliographie qui ne soit pas en anglais. Et la justification, c'est que, eh bien oui, mais les éditeurs nous imposent ça. Non, c'est pas vrai. Je crois pas qu'un éditeur t'impose ça. Je crois pas qu'un éditeur refuse si tu dis écoutez, je comprends que les élèves américaines à peine parlent l'anglais. C'est une grande satisfaction pouvoir corriger les devoirs en anglais des élèves d'Harvard et leur montrer que l'anglais est un petit peu pas satisfaisant. J'ai perdu mon fil.
Sur le fait que les livres étaient en anglais.
Tout à fait. Aucune maison d'édition va. Merci. Et qu'une maison d'édition va vous dire, écoutez, une appendice à la bibliographie, par ailleurs, vous serez intéressé, non, qu'il y a des ouvrages d'autres langues. Ce que j'ai fait cette année, mais je l'ai fait déjà à Oxford 2 ou 3 fois, j'ai parlé, je ne sais pas, de Mendel, et j'ai amené un livre en français, d'un monsieur qui est présent ici, un livre en italien, un livre en tchèque, un livre en allemand, en disant bien sûr que je ne lis pas les tchèques. La réaction intéressante, parce que les jeunes, c'est difficile qu'ils mentent. Il y a une forme, je ne vais pas faire l'éloge de l'honnêteté des jeunes, mais disons qu'ils sont moins rusés. Ils m'ont exprimé l'étonnement en voyant que des gens écrivaient en Italie, en France, dans la République tchèque. C'était pour eux une vraie découverte. Et si nous, les professeurs des universités, nous acceptons qu'une Harvard University Press ou Chicago University Press quelconque nous prévient de citer des livres qui ne soient pas écrits en anglais, nous avons déjà signé les pactes de fidélité au fascisme. Nous avons déjà fait la souscription. Nous avons déjà accepté, parce qu'une chose est prétendre que des jeunes puissent pratiquer plusieurs langues, qui n'est pas normal, même si, comme j'ai rappelé aux amis auparavant, j'ai payé un prix en Italie parce que je parlais plusieurs langues, un prix lourd. Et j'essayais de rappeler à mes collègues que tous les garçons de restaurants italiens parlent plusieurs langues. Et que ce n'est pas un snobberie, c'est une nécessité. Si tu veux travailler, tu apprends les langues. Autrement, tu ne travailles pas. C'est très simple. Mais on ne peut pas prétendre que les jeunes. Mais il faut prétendre que les jeunes, les élèves de nos universités, nos doctorants, comprennent que, je le disais auparavant dans un autre contexte, la scholarship existe. Que les gens produisent des connaissances ici et là. Et au moins qu'ils soient conscients. Donc abdiquer à ça, je trouve inacceptable. Contestation, peut-être, ce serait plus.
D'autres révoltes.
On passe à la pause.
Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. On enchaîne donc avec une table ronde. Comment l'histoire des sciences s'empare-t-elle des thématiques contemporaines ? Je laisse les intervenants s'installer.
Vous souhaitez un ordre plus particulier d'intervention ?
Je pense que moi, comme c'est particulier, je pense que Bernadette peut commencer.
Donc, si pareil, tu ne vois pas d'inconvénient,
tu fais ladies first.
Ladies first, ok. Yes. En français, c'est ça.
Donc on arrive à cette nouvelle table ronde « Comment l'histoire des sciences s'empare-t-elle des thématiques contemporaines ?» Donc nous devons déjà, d'ores et déjà, excuser l'absence de Jean-Michel Besnier qui est souffrant. Et me reste à vous présenter les trois intervenants. Donc. Vous aurez donc un peu plus de temps pour parler et discuter. Donc Bernadette Benson-Vincent qui est professeur émérite à l'université Paris 1, Pierre Lamarre qui est professeur en histoire des techniques à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et Thierry Hoquet qui est professeur de philosophie des sciences à l'université de Nanterre. Donc c'est Bernadette Benson-Vincent qui va ouvrir la discussion, et puis on enchaînera après peut-être avec Thierry Hoquet et ensuite Pierre Lamarre.
Bien, merci beaucoup de l'invitation.
Tu peux mettre comme ça.
Merci beaucoup de cette invitation, et c'est une rencontre presque, j'allais dire, familiale, puisque c'est un petit monde, mais très accueillant. Comment l'histoire des sciences s'empare-t-elle ? J'aime pas le mot s'emparer. Je pense que plutôt l'histoire des sciences se plie ou se suit, de toute manière, comme toute histoire, l'histoire des sciences s'écrit au présent. Et elle ne peut pas échapper au présent, comme le rappelait Lucien Febvre dans ses fameux combats pour l'histoire. L'homme, je le cite, ne conserve pas le passé dans sa mémoire comme les glaces du Nord conservent frigorifiées les mammouths millénaires. Il part du présent et c'est à travers lui, toujours, qu'il connaît. Donc comment on connaît à travers le présent et comment on interroge ou reconstruit le passé ou exhume le passé à travers le présent, eh bien, je focaliserai aujourd'hui sur un aspect, puisqu'il s'agit des sciences, c'est l'évolution récente des sciences vers un nouveau régime de production de savoir, pour employer le jargon à la mode, qui est les technosciences. Bon, la question d'ailleurs, est-ce qu'il est nouveau ? À mon avis, c'est une question qu'il faut poser. Mais il a deux traits caractéristiques, ce régime des technosciences. Le premier, c'est le brouillage des frontières. Et des frontières, non seulement des frontières entre sciences et techniques, comme le dit le mot technoscience, avec un primat de la technique sur les sciences, mais également un brouillage des frontières entre les disciplines traditionnelles. Je veux dire que dans la recherche actuelle, il est difficile de trouver le moindre projet qui ne mobilise pas à la fois des physiciens, des chimistes, des géologues, des climaticiens, etc., etc. Et les identités disciplinaires tendent à s'estomper. Mais surtout, c'est aussi un régime où il y a une extrême porosité entre sciences et société. C'est-à-dire que les sujets sont particulièrement critiques à l'égard de l'actualité. Ils sont souvent imposés par l'actualité, puisque c'est des recherches sur projet. Et les sujets de recherche, les projets de recherche plutôt, sont commandés par des politiques scientifiques et par le marché, il faut bien le dire. Donc il y a cet brouillage des frontières qui me paraît redessiner le champ du travail des historiens des sciences, puisqu'on écrit l'histoire au présent. Un deuxième trait qui est moins souvent pointé, c'est le focus sur les objets. Les technosciences ont complètement changé notre rapport aux objets. Je veux dire par là que dans les sciences traditionnelles, les sciences modernes, comme on disait, ou classiques, suivant qu'on est philosophe ou historien, l'objet est là, l'objet de laboratoire, il est là comme échantillon représentant d'un phénomène naturel. Il est témoin d'une loi naturelle. Alors que dans les technosciences, l'objet est là pour lui-même, il est intéressant pour lui-même, et il est traité comme une possible machine, un possible dispositif qui va faire quelque chose. Les atomes, les molécules, ne sont plus des témoins de la structure de la matière, par exemple. Non, ils sont là comme des nanomachines qui peuvent être mises au travail dans certaines conditions. Le gène n'est plus le secret de la vie. Le gène, c'est un instrument qu'on met au travail pour fabriquer des machines. Et donc, c'est un changement dont on n'a pas pris la mesure. Et je pense que ça concerne beaucoup l'histoire des sciences. Et ce changement dans l'évolution des sciences elles-mêmes du monde fait qu'il y a eu, au cours des 20 dernières années, une recomposition complète des courants dans l'histoire des sciences. J'ai moi-même été témoin de cette révolution dans les années 80, d'abord qui a fait voler en éclats la distinction entre sciences et société. La fameuse distinction qu'on nous apprenait, il y a l'histoire internaliste et puis l'histoire externaliste, et il y avait un partage. Ben, le courant STS l'a complètement balayé, et il n'y a plus de frontières entre sciences techniques et société. Et ça, surtout, ça nous a libérés du découpage disciplinaire. Je veux dire que il y avait, et ça reste un problème à mon avis, il y avait des historiens de la biologie, des historiens de la physique, des historiens des mathématiques, il y a toujours, des historiens de la chimie, il y en a de moins en moins. Mais on était, finalement, les disciplines, on suivait notre objet. Or, j'ai vu apparaître dans les congrès d'histoire des sciences, des symposia, sciences et militaires, big science, histoire de la santé, histoire des musées et de la popularisation des sciences, histoire des instruments scientifiques, histoire environnementale, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande recomposition du champ qui est libéré des disciplines académiques traditionnelles, et j'en donnerai ici deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on a appelé le material turn en histoire des sciences. Et c'est d'ailleurs le tournant de l'histoire discursive turn ou linguistic turn vers qui portait son attention exclusivement aux théories et aux concepts, vers une attention aux objets et au matériel, aux conditions matérielles. La première chose, et là j'adhère tout à fait à ce qui a été dit, c'est l'inscription matérielle des résultats scientifiques qui a été décisive pour porter ce courant, notamment avec le concept de mobile immuable de Latour, qui montre que l'inscription des résultats scientifiques qui circulent sous diverses formes change complètement le type de rapport à la science. Et le fameux livre, un très beau livre que je recommande, de Jeff Bowker, Memory Practices in the Science, de MIT 2005, qui montre que les infrastructures qui permettent d'enregistrer les résultats de la science déterminent le type de récit qu'on va faire de la science. Donc ça, c'est une première chose, c'est l'inscription des résultats scientifiques, mais plus encore, le material turn, c'est vraiment que l'histoire s'est ouverte aux matériaux, aux objets, et à la fois, ça a été très, très encouragé par les musées qui ont travaillé sur les instruments scientifiques et montré qu'on peut construire l'histoire de la science à partir d'une histoire matérielle des instruments scientifiques, l'histoire aussi des objets au Quai Branly en particulier, qui mobilisent énormément de rapports à la science, et puis l'histoire des matériaux, des pigments. J'ai parlé ce matin des archéologues qui utilisent beaucoup ces matériaux. Aujourd'hui, l'histoire des molécules, l'histoire des éléments, on peut faire une histoire de notre civilisation à partir de l'histoire du carbone, du silicium, etc., etc. Et il est très important, me semble-t-il, de montrer combien les idées ne sont jamais indépendantes des matériaux et combien l'histoire des techniques se confond avec l'histoire des sciences. Le deuxième exemple, c'est l'histoire environnementale. L'histoire de la Terre fait irruption dans l'histoire des sociétés humaines. Et histoire, ça a complètement renouvelé l'histoire, qui a d'abord été focalisée sur le thème de l'effondrement des sociétés. Hein. L'histoire environnementale s'est d'abord consacrée avec Yaren Diamond, Collapse, How Societies Choose to Fail or Survive, en 2005, qui étudie comment les grands empires se sont effondrés. Il faut dire qu'on parle beaucoup de collapse en ce moment. Et comment les grands empires se sont effondrés, non seulement à cause des facteurs sociaux traditionnels qu'on invoque, la pression des ennemis, l'effondrement de l'économie ou autre, mais à condition de changement climatique ou d'arrivée de la peste, des microbes, etc. C'est une relecture complète de l'histoire des sociétés. Et en histoire des sciences, ça donne de très, très grandes choses. C'est-à-dire que cette histoire environnementale a été illustrée en France, et c'est un grand renouveau, par une histoire des risques en particulier. De montrer, c'est le cas de Jean-Baptiste Fressoz, l'Apocalypse joyeuse, qui est aussi sur le collapse d'une certaine façon. L'histoire des risques de la pollution montre que, bien avant notre époque, on a été alerté à notre relation à l'environnement et qu'on a essayé de prendre des mesures, etc., qui ont été complètement passées, écrasées, passées sous silence. On fait une excellente histoire et des sciences et de la société à partir de cette notion, où Thomas Leroux, le laboratoire des pollutions industrielles en 2011. Donc, pour conclure très, très vite, moi, je suis très optimiste. Il y a une très large ouverture aujourd'hui de l'histoire des sciences grâce à cette recomposition du monde des sciences. C'est une très grande ouverture qui nous oblige, nous, à sortir de notre zone de confort. C'était bien quand on avait une formation de médecin et qu'on pouvait faire de l'histoire de la médecine, point, c'est tout. Maintenant, on est forcé à sortir de notre zone de confort. J'appelle ça de l'amateurisme obligé, hein, parce qu'on est obligé d'aller au-delà de notre zone d'expertise, et tant mieux, parce que ça ouvre l'esprit. Mais en revanche, c'est assez dramatique pour les problèmes de recrutement et de carrière des jeunes. C'est-à-dire que tant que le recrutement professionnel, académique, reste
un département de philo, un département de biologie, un département de médecine, eh bien, les doctorants que j'ai formés, par exemple, ont beaucoup de mal à se caser parce qu'ils ont travaillé sur des sujets qui sont complètement transversaux et qu'ils n'appartiennent à aucune discipline. Et c'est un vrai problème qui appelle des réformes urgentes, je crois, du recrutement et de la position institutionnelle de l'histoire des sciences. Alors, je vous remercie.
Hier soir, j'ai annoncé que je parlerais 3 minutes, donc je vais parler 3 minutes. Et puis ensuite, je ferai mon exposé d'une demi-heure, comme il se doit, d'accord ? Ça va comme ça ? Non, les 3 minutes, je voudrais les consacrer d'abord, évidemment, à souligner le travail d'Anne Piriou, d'Héloïse Morel et de l'Espace Mendès France. Souligner surtout la réussite de cette journée qui concentre une densité incroyable de chercheurs. Je ne suis pas sûr que dans une assemblée générale au Centre Alexandre Coiré, ou au Conseil général de la SFHST, on puisse réunir autant de chercheurs au même endroit, au même moment. Donc bravo pour cette performance. Et puis la deuxième partie de mes 3 minutes, je vais la consacrer à parler de Bernadette, parce qu'elle a présenté sa compréhension du sujet en le mettant immédiatement un peu à distance, mais sur le mode de comment l'histoire des sciences s'empare des thématiques contemporaines, mais d'un point de vue très global et méta, en fait. Et elle n'a pas parlé de son travail personnel ou seulement à travers la médiation de grandes tendances. Et je voudrais souligner ici la manière dont Bernadette Binceau de Vincent s'est constamment renouvelée au cours de sa carrière. Et c'est précisément un très bon exemple de la manière dont l'histoire des sciences s'empare de thématiques contemporaines, puisque à partir, je fais ça à gros couteau, pardon, et sans doute en ratant des étapes, mais pour moi, c'est une carrière qui s'est déployée à partir du territoire de l'histoire de la chimie. La chimie lavoisérienne est dans le siège ou dans le compagnonnage de Michel Serres, et qui ensuite a connu pour moi une grande mutation avec le travail sur les nanotechnologies, les nanoéthiques, et puis encore très récemment des travaux sur les plastiques, des travaux sur les formes multiples que prend le carbone. Et voilà, cette malléabilité du matériau intellectuel qu'est Bernadette a toujours été pour moi un grand sujet d'admiration, hein, au sens classique, hein, un grand étonnement, comment est-ce que c'est possible de se renouveler à ce point, et d'admiration aussi au sens contemporain. Voilà, donc je voulais souligner ces aspects parce que vous avez donc sous les yeux, pour ceux qui ne la connaissent pas, très rare, mais il y en a peut-être, un bon exemple justement d'illustration vivante de la thématique qui est posée pour la table ronde. Voilà, j'ai fini mes 3 minutes, je fais ma petite.
Les 30 minutes.
Mes 30 minutes, non. Pardon.
L'échantillon.
Un très bon échantillon, merci. Alors, affichage, c'est ça. Alors, comment l'histoire des sciences s'empare-t-elle des thématiques contemporaines ? J'appelais ça l'urgence du maintenant, parce que il me semble qu'il y a un paradoxe de l'urgence du maintenant, et que c'est ça qui est posé par cette question de s'emparer, l'histoire des sciences qui s'empare. Paradoxe de l'urgence du maintenant pour un historien, si Pietro me permet d'usurper ce titre prestigieux d'historien, puisque en fait je ne suis pas vraiment, hein. Donc s'agit-il par cette urgence du maintenant de répondre à des impératifs politiques et sociétaux ? S'agit-il de céder à un air du temps ? Je crois que le reproche doit être entendu parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement que nous parlons toujours à partir de maintenant. Il y a des inflexions du maintenant, il y a des modes théoriques, ça Pietro l'a rappelé, hein, des vogues de citations obligées, de passages obligés, de droits de passage à acquitter. Et il y a aussi des vogues thématiques, hein, et effectivement, elles infléchissent le choix des objets de recherche, mais aussi, peut-être avant, et ça Jacqueline Carrois l'a bien rappelé ce matin, dans un contexte universitaire, le choix des thématiques qu'on enseigne, en fait, qu'on se sent en droit d'enseigner, parce que personnellement, on peut s'intéresser à plein de choses, publier sur plein de choses. En revanche, ce qu'on décide ce à quoi on décide de consacrer les quelques heures que l'on va passer avec un étudiant ou des étudiants pendant un semestre, ça n'est pas un choix entièrement libre, d'abord parce qu'il est contraint par des maquettes, mais aussi parce qu'il est contraint par une sorte d'adaptation requise à ce qu'on imagine être les besoins ou les désirs du public qu'on va avoir devant soi. Donc se laisser infléchir, entendre quelque chose de ce qui se joue dans la société plus largement. On dit parfois que le génie ou l'artiste se laisse requérir par l'œuvre, mais l'œuvre qui l'appelle, hein, qui danse devant lui la nuit, mais l'historien des sciences, quelle est sa trajectoire? Il ne s'agit pas évidemment de se laisser balloter par les tendances, par les vogues, mais se laisser peut-être infléchir ou assouplir dans ses choix thématiques. Voilà quelque chose qui me semble devoir être interrogé et mis sur la table. Je vais juste l'illustrer par quelques exemples. D'abord, je voudrais rappeler, puisque j'ai mis mon badge rêvé, je voulais commencer par un rêve qui s'est produit il y a presque 400 ans, hein, le 10 novembre 1619. C'est un rêve d'un certain René D. Un soir de grand vent, il a 23 ans, il est en garnison à Ulm, et il raconte qu'une nuit, donc cette nuit-là, il a fait plusieurs rêves, plein d'enthousiasme, et il a découvert ou inventé les fondements merveilleux de la science. Et dans ses rêves, il raconte précisément deux choses qui nous permettent à la fois de problématiser ce fait de s'emparer ou d'être emparé. Il raconte d'abord qu'il a été poussé par un grand vent, en fait. Et le vent l'a poussé vers une église. Alors, une église, ça a plein de significations. Il y a une histoire de melon aussi qui est très célèbre dans ses rêves. Mais à un moment, il rencontre un livre, un Corpus Poetarum ouvert. Il appelle ça sa Beata Nox, sa nuit bienheureuse. Et dans ce Corpus Poetarum, il l'ouvre à une page où il lit un vers du poète Ozone, où il est dit « Quod vitae sectabor iter ?» Quel chemin de vie suivrai-je, en fait? Et c'est ça la question d'être requéri, d'être requis, pardon, requis par... alors quoi? Le grand vent, ici, qui vous pousse et qui vous amène à voir ou à ne pas voir. Cette idée de l'itinéraire ou de la trajectoire que l'on emploie, c'est-à-dire quand on compte le nombre d'années qui nous reste à vivre, à quoi est-ce que l'on décide de les consacrer et qu'est-ce qui nous paraît urgent de faire, sachant qu'on ne sait pas bien sûr combien d'années il nous reste à vivre, et donc l'urgence de maintenant, c'est l'urgence de peut-être pas de demain, voilà, donc il faut toujours y penser. Alors, j'ai pensé beaucoup à moi en préparant ce sujet. Il y a beaucoup d'anniversaires, on peut dire, les 400 ans du rêve de Descartes, les 30 ans de l'espace Mendes France. Et puis, voilà, moi, je fais le bilan de 20 ans de sciences dans les sciences de la nature, puisque, en fait, j'ai travaillé, on va dire, pendant 10 ans sur l'histoire naturelle en général, sur Buffon, sur Linné, sur la botanique des années 1830 autour de la figure d'un banquier d'origine genevoise, Benjamin de Lesserre. Et puis, à partir de 2007, j'ai fait un tournant, on peut dire. C'est-à-dire, j'ai pensé qu'il appartenait à mes fonctions de ne pas rester cantonné dans le XVIIIe siècle, mais puisque j'avais un poste d'histoire et philosophie des sciences dans une faculté de philosophie, d'élargir ma compréhension de ce qu'étaient les sciences. Et c'est cette mise en route un peu, c'est pour ça que je parlais du grand vent qui vous pousse. On est agi par un ensemble de situations institutionnelles qui vous invitent à prendre des décisions, à faire des choix. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'intéresser à la théorie de l'évolution, à Darwin, et à l'histoire du concept de sexe et de sélection sexuelle. Donc voilà, je me suis arrêté ici en 2018 comme si j'étais mort, mais disons comme si l'année qui s'ouvre n'était pas encore écrite, voilà, en tout cas. J'ai été surpris, voilà, je retrace ce parcours parce que voilà sur quoi j'ai travaillé pendant 20 ans, voyez, les sciences de la nature, 17e, 18e, 19e, 20e, et à aucun moment dans ces 20 ans, je me suis posé la question de qu'est-ce que la nature et qu'est-ce qu'on doit faire pour la nature. Donc voilà un exemple d'être requis, c'est-à-dire pendant que d'autres, donc Matagne et d'autres consacraient leur pensée à l'écologie, à l'histoire des sciences de l'environnement, mais déjà avec un enjeu éthique, il y a, ou social en tout cas, moi je travaille sur les sciences de la nature. Voilà. La théorie de la reproduction, toutes sortes de choses. Et ça n'est que, encore une fois, une situation institutionnelle particulière. À un moment, on me demande de faire un cours de philosophie de l'environnement, que je me dis, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est que la nature après 20 ans d'avoir travaillé sur les sciences de la nature. Et pendant ce temps, des discours ont fleuri. Des discours, bien sûr, écologiques, mais aussi des discours suscités par le féminisme. C'est-à-dire selon lequel les sciences de la nature sur lesquelles j'avais tant travaillé étaient en fait travaillées par un impensé sexiste, c'est-à-dire ce que Pierre Hadot a décrit sous la figure du voile d'Isis. Cette nature voilée que le scientifique s'emploie à découvrir, qu'il y avait là peut-être quelque chose de l'ordre d'un viol qui était en quelque sorte le péché originel des sciences de la nature, ce qu'on ne perçoit pas nécessairement quand on travaille sur des naturalistes qui dissèquent et qui... Et donc l'aspect métaphorique... Donc ici, le contemporain, il prend plusieurs formes. Il prend la forme de l'urgence écologique, il prend la forme de l'interrogation féministe qui nous fait revenir en retour sur des corpus qu'on croyait bien connaître, mais qui nous invite à les reprendre d'un œil neuf, d'un œil politique et engagé aussi. Et puis, tout un discours qui fleurit également dans l'ordre, dans le domaine de ce qu'on appelle les études des sciences. J'ai mis Latour en exemple parce que, avec le concept de modernité, il a en quelque sorte synthétisé ou popularisé une sorte de lecture de ce que signifiaient les sciences de la nature au XVIIe et XVIIIe siècle dans l'instauration, on pourrait dire, d'une dichotomie entre humain et nature, avec les échos que ça a également en anthropologie avec la question du naturalisme. Donc la nature, c'est un ensemble de domaines qui surgit comme ça et qui invite à reparcourir un corpus avec des nouvelles questions. Quelle est la signification des sciences de la nature au-delà de sens des sciences au même titre que la physique mathématique, voyez. Quelle est la signification de cette modernité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue réellement au XVIIe, XVIIIe siècle en termes de destinée en quelque sorte, c'est ça qui nous est demandé. C'est pas juste de savoir si les cartésiens et les newtoniens étaient en rivalité, c'est de comprendre ce qui se joue dans les visions de la nature qui étaient déployées par ces auteurs. Quelle est l'histoire du concept de nature? Quelles sont les conceptions extra-européennes de la nature? Existe-t-il quelque chose comme un naturalisme européen, ce dont parlent les anthropologues? Ce naturalisme éventuel a-t-il une spécificité? Évidemment, sur toutes ces questions, ce sont des invitations à reparcourir des corpus. Voilà, moi j'ai des opinions en fait, j'ai des idées, j'ai des pistes à suivre. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment le maintenant vous invite à répondre à des questions que vous ne vous étiez pas nécessairement posées. Alors, je donne juste deux autres exemples de cette exigence, de cet impératif de repenser. Le concept de sexe, qui a pour moi été très important, au sens où, effectivement, travailler sur la reproduction, c'est très intéressant, mais voir comment le masculin et le féminin, le mâle et la femelle sont convoqués, expliqués, déployés, réalisés, matérialisés dans des théories de la génération, c'est très intéressant également, et ça implique, si vous voulez, une réflexion sur un au-delà de la bicatégorisation sexuelle. Huxley, ça va plaire peut-être à Pietro, sans doute, je pense, qui connaît ce passage. Huxley parlait toujours de Darwin comme cet éternel hermaphrodite, en fait, parce qu'il... pas que Darwin lui-même était hermaphrodite, mais il avait un intérêt pour les modes de reproduction hermaphrodite. Alors, comment a été pensée cette différence des sexes au fil des âges, selon des modèles théoriques différents, humoraux, hormonaux, génétiques? S'agit-il ici, dans la différence des sexes, de nature ou s'agit-il de naturalisation, c'est-à-dire de processus par lesquels on raconte une certaine manière de comprendre la nature? Et ici, on revient sur ce qu'on évoquait ce matin après la conférence de Raphaël Mandressi, à savoir la question du relativisme, qui était aussi l'objet de la première table ronde de la journée, enfin... un des échos, cette question du relativisme liée à la pratique historique. C'est-à-dire, si on dit, en fait, ce qu'on appelle la différence des sexes constitue en fait une succession de discours historiquement situés et de modèles épistémiques dépendants d'un certain état, de la société, de la culture et de la technique. On ne parle plus de nature, on parle de différentes manières de naturaliser, c'est-à-dire de raconter ce qu'on pose comme la nature, nature étant, n'étant plus un concept physique, mais un concept moral, c'est-à-dire une sorte de devoir-être et d'impératif qui passe, qui se fait passer pour naturel, c'est-à-dire réel. Et enfin, dernier point, le concept de cyborg, je pensais que ça ferait aussi la transition avec l'intervention de notre ami Beignet qui n'est pas là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense la place de la technique dans notre monde? C'est-à-dire, c'était aussi pour dire histoire et philosophie des sciences et des techniques, c'est toujours quelque chose d'important pour nous. Comment penser le phénomène technique? Dans la mesure où les préhistoriens vont nous dire que le phénomène technique accompagne l'humanité depuis toujours, si on ne dit pas que le phénomène technique a constitué l'humanité, mais en tout cas qu'il l'a accompagné, qu'il a coévolué avec l'humanité. Et en même temps, essayer de saisir ce qu'il y a de spécifique dans les formes contemporaines de la technique, c'est-à-dire à la fois penser la continuité de certains modes d'existence et les transformations radicales qui peuvent se jouer sous nos yeux et que l'historien, s'il se borne simplement à dire la technique a toujours été là avec l'humain, la continuité, le sentiment de temps long et de continuité pourrait conduire à rater finalement la spécificité et les ruptures en fait qui pourraient s'engager dans les modes contemporains de la technique. Voilà, donc cette urgence du maintenant, pas un retour facile, je dirais que c'est une urgence pour demain. Le paradoxe de l'histoire des sciences, c'est précisément de montrer la nécessité de se tourner vers hier pour répondre aux inquiétudes d'aujourd'hui et de demain. Alors pourquoi se tourner vers hier? Peut-être parfois pour décaler le problème, pour le reformuler, peut-être parfois pour, au contraire, noter des rapprochements. Hein. Ce matin, vous évoquiez comment la situation de Vichy sur laquelle vous travaillez résonnait étrangement parfois avec certains phénomènes que vous observiez aujourd'hui, même si vous avez la lucidité de percevoir les décalages quand même. Hein. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que certains phénomènes historiques, c'est-à-dire, par exemple, l'expérience de la caducité des théories scientifiques. Le fait qu'une théorie scientifique qu'on pensait immortelle un jour est renversée, élargie, localisée. Qu'est-ce que ça nous fait penser sur la science glorieuse sur laquelle nous reposons aujourd'hui, en fait, hein, c'est-à-dire ce vertige rétrospectif. Donc, cette urgence pour demain, c'est à la fois peut-être, en un sens, entendre les urgences politiques, sociétales, qui sont contraintes aussi par tout ce que Bernadette a rappelé concernant les appels à projets. Mais c'est aussi, je pense, pour ne pas se nier en tant qu'historien, c'est aussi l'urgence d'un pas de côté, d'un retour réflexif, c'est-à-dire d'une analyse qui va, plutôt que répondre à la question, toujours la dissoudre, la reformuler et tenter d'en préciser les termes. Voilà, merci.
Bien, merci. D'abord, je remercie les organisateurs et les organisatrices de m'avoir invité à cet espace que moi, je découvre. Vous avez l'air d'être déshabitués, moi, je découvre cet espace. Voilà. Donc, j'ai l'œil un peu candide sur ce lieu. Et puis, je suis content d'intervenir en dernier pour deux raisons, parce que je vais faire écho à ce qu'a dit Bernadette sur... Elle a parlé de lieux, elle a parlé de brouillard. Je vais essayer d'incarner ça, d'une part, et puis par rapport à ce que vient de dire notre collègue Hoquet, il vient d'évoquer l'acceptation de l'immuabilité du fait technique et qu'il met la pression sur les historiens et les techniques en disant « montrez vos spécificités ». C'est en quelque sorte la question, comprendre la spécificité de la technique à des moments précis. Donc je vais essayer très modestement de me positionner sur ces deux registres. Je ne vais pas mener une autocritique, je vais plutôt mener un exposé de satisfaction. Donc ce n'est pas la posture du chercheur d'être satisfait de lui-même, mais je vais essayer de justifier un lieu. Tout à l'heure, Bernadette a parlé des lieux, elle a parlé des musées qui avaient joué un rôle pour l'instrumentation finale, mais il y a des lieux où finalement se justifie une histoire des techniques. Et ce lieu, c'est là où d'autres lieux que les musées, c'est là où je professe, là où j'enseigne et là où je recherche. En effet, je suis enseignant-chercheur dans une université de technologie. Et on va dire que je suis dans un milieu technique. Je baigne constamment dans un milieu technique. Et en quoi être dans ce milieu technique me permet-il d'exister et peut-être d'apporter ma pierre à l'édifice du point de vue de la formation et du point de vue de la recherche. La place des sciences humaines et sociales dans les trois universités technologiques qui existent sont extrêmement importantes, puisque du point de vue de la formation, si on prend un concept large, il y a un tiers de la formation qui est dévolue à ce domaine, DSHS. Donc c'est extrêmement important. Mais non seulement la formation, mais également la recherche. Donc je vais essayer de déployer ces deux aspects. Et comment cette histoire, et comment on s'empare, finalement, ou on va dire l'histoire des techniques se déploie à partir de quels faits? Je vais partir du constat suivant, d'abord au point de vue de la formation, c'est que très vite, la connaissance ou l'objet dont a parlé tout à l'heure Bernadette, dans les milieux des ingénieurs, on quitte le laboratoire. La connaissance très vite va quitter le laboratoire. En sciences formelles, il y a, avant qu'il y ait émergence de théorie, etc., il y a des confrontations très très internes, mais qui ne sortent pas du laboratoire, si ce n'est qu'avec d'autres laboratoires qui sont sur les mêmes thématiques. Mais voilà. Par contre, la technologie sort tout de suite la connaissance technologique sort tout de suite du laboratoire. Elle est tout de suite confrontée à quoi? Elle est tout de suite confrontée à la société, au coût, à l'acceptabilité sociale, aux usages, à il faut répondre aux attentes, etc. Donc, mon rôle, c'est de sensibiliser le futur ingénieur, l'élève ingénieur, à la portée de cette connaissance, de ce processus. Il faut qu'on lui montre qu'il puisse faire à la sortie de sa formation le lien entre la science et la société, les questions sociétales, poser la question des valeurs associées à son objet qu'il a créé, à cette création technique, à cette création technologique. Donc il y a les valeurs éthiques, les valeurs, son engagement sur tel ou tel choix, c'est les phases de médiation. Donc, pour l'élève ingénieur, la technologie ne doit pas être réduite à l'optimisation de son objet, mais va bien au-delà. Et donc, le rôle des SHS et de l'histoire des sciences et des techniques, que je dis bien fort, et des techniques que j'incarne, j'ai envie de dépasser le supplément d'able, de mettre un petit peu de vernis sur la formation, un petit peu de cosmétique. Il faut là véritablement sortir l'élève ingénieur de l'impensé de sa technique, de la pensée de la technique. C'est important. Je veux citer Andrew Feinberg. Il dit « La création technique implique une interaction entre raison et expérience. » Et puis j'ai envie de citer, j'ai vite feuilleté votre publication. Je vois Edgar Morin, une connaissance qui ne serait pas capable de relier serait une connaissance impuissante. Donc on voit bien là la chose entre la théorie et puis ce qui va être produit et ses incidences. Donc, il faut les former à ça. Il faut, à mon sens, ne pas former pour répondre aux attentes d'un environnement socio-économique, c'est-à-dire former un ingénieur attendu. À mon sens, il faut veiller à ce que cet élève ingénieur soit capable, ou cet futur ingénieur, soit capable, soit doté d'outils conceptuels et de méthodologies pour être un acteur du devenir de la société, ce qui est fondamentalement différent. Donc, on voit bien le rôle là d'une histoire des sciences au sens global du terme pour ces élèves ingénieurs. Du point de vue de la recherche, alors, formation par la recherche, hein, on pourrait se contenter, formation par la recherche. Alors, on est une toute petite équipe d'enseignants, chercheurs en SHS, nous sommes 3 historiens, il y a un philosophe des techniques, 2 sociologues et 3 économistes, donc une petite dizaine de personnes. On entre dans la recherche justement parce que disait Bernadette tout à l'heure, on s'intéresse de manière pluridisciplinaire à l'intérieur de SHS au même objet. Hein, c'est l'objet technique. Donc là, on est toute petite équipe dans une grosse UMR science pour l'ingénieur. Donc, science pour l'ingénieur, faut comprendre que les sciences pour l'ingénieur convoquent des disciplines formelles, les maths, la physique, au service de technologies, les matériaux. Bernadette parlait tout à l'heure de matériaux, la mécanique, l'informatique, etc. Et donc, nous, on a envie d'être convoqués au même titre que les mathématiques ou la physique pour comprendre des objets, pour co-construire ces objets techniques avec les chercheurs, avec les ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'être extrêmement stimulant. Alors, bien sûr, on va formuler des savoirs. On va contextualiser, l'historien va contextualiser, apporter une solidité épistémologique au changement, etc., au social. Bon. Mais on va aussi, véritablement, mettre l'objet technique au centre même de toutes les attentions pour pouvoir dialoguer directement avec les sciences de l'ingénieur. Donc, comment l'histoire des sciences et des techniques s'empare de thématiques contemporaines ? Nous, c'est très facile. Parce que les thématiques contemporaines, c'est tous les jours. Parce que sort des laboratoires de cette fameuse UMR, CNRS, SPI, Sciences pour l'ingénieur, il sort des objets techniques qui ont vocation à se déployer dans la société, à trouver, donc à être, on va dire, aux prémices de l'innovation. Hein, donc, voilà. Et comment on fait ? Ça qui est intéressant. Eh bien, je vais vous citer un exemple qui est en train de se déployer en ce moment, qui est, on va dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'histoire des sciences et des techniques ? J'ai une petite équipe qui travaille sur un projet, donc Interreg, c'est un projet entre pays, entre Suisse et France, sur l'implantation de capteurs pour les pompiers en intervention. Donc, vous voyez, c'est un objet très précis, extrêmement précis. Et le technologue va créer son objet parce qu'on a besoin de connaître la température, enfin, on a besoin d'informations extérieures, la température, l'humidité, enfin, des tas de choses qui permettent de prendre des décisions au moment d'un incendie, mais également des capteurs internes, c'est-à-dire sur le pompier lui-même, parce que le pompier ne sait pas toujours qu'il est en danger, rythme cardiaque, enfin, toute une série de choses. Donc, ça, c'est facile, c'est très facile de mettre des capteurs. Encore faut-il que ces capteurs puissent être opérationnels, non pas techniquement, mais la relation avec l'humain. Hein, le pompier, en intervention, sait toucher quelque part le fait qu'il donne des informations sur son corps, et pour lui, sa santé physique, c'est primordial, et qu'il donne à l'extérieur des données au moment de l'intervention, lui, ça ne veut pas du tout lui convenir. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue et faire comprendre au technologue qui va mettre au point ce capteur que peut-être qu'il travaille pour rien parce que quelque part, ce sera complètement, c'est une technologie qui sera complètement refusée par les usagers en cours d'intervention. Donc, les SHS, alors là, ce n'est pas l'histoire, hein, c'est plutôt les sociologues, c'est plutôt le philosophe des techniques qui vont mettre en relation, on va dire, les attentes, les craintes, et faire exprimer ces craintes donc de l'usager, la hiérarchie des pompiers, et puis faire le pont avec le technologue qui doit prendre en compte ou pas. Et finalement, les SHS se mettent au niveau, au moment de la créativité de cet objet technique, au niveau des autres domaines, ni en surplomb, ni en termes d'acceptabilité sociale. Il y a bien un phénomène de co-construction qui va permettre, eh bien, peut-être, d'aboutir. On n'a pas les résultats aujourd'hui, mais voilà, c'est un tout petit exemple très, très précis. Alors, bien évidemment, l'historien des sciences ou des techniques a son rôle à jouer. Encore une fois, peut-être pas dans ce domaine précis-là, qui est un problème extrêmement, on va dire, court dans le temps, hein, mais quand on a des grandes questions, et Bernadette a été de jury sur une thèse de la pile à combustible, l'histoire de la pile à combustible, et on voit que, en gros, cette thèse montrait qu'il y a eu une espèce d'épiphanie de la pile à combustible dans les années 60, c'est retombé complètement à plat, et aujourd'hui, on parle beaucoup de pile à combustible via l'hydrogène, etc., etc., donc c'est bien une problématique contemporaine. Eh bien, on voit bien que l'historien des sciences et des techniques va apporter des éclairages. Pourquoi, à un certain moment, l'engouement s'est-il éteint, alors qu'il y avait une maîtrise? Et là, il y a une proposition d'explication par... on va dire l'analyse des réseaux sociaux, le rôle des chimistes, le rôle des industriels, le rôle, etc. Et donc, c'était extrêmement éclairant pour comprendre eh bien, que petit à petit, cette technologie qui, encore une fois, a suscité beaucoup d'espoir dans les années 60, soit complètement éteinte pour renaître avec d'autres attentes, bien sûr, dans les années aujourd'hui. Donc, voilà deux exemples où moi, j'ai la chance d'être tous les jours confronté on va dire, à des thématiques contemporaines. Bernadette, tu parlais de l'environnement, donc c'est le climat ou la mobilité. Voilà, encore une goutte aujourd'hui, les mobilités. Là, c'est une thématique aujourd'hui, on doit être en écho avec cela. Donc voilà mon témoignage, à la fois du point de vue de la formation, à la fois au niveau du positionnement de la recherche, comment moi je vis les thématiques contemporaines. Hein, encore une fois, de manière un peu peut-être plus facile parce que je suis complètement immergé dans ce milieu technique. Voilà.
Alors, Bernadette, tu veux réagir?
Non, je veux juste donner deux exemples à l'appui de ce que vient de dire Pierre pour montrer la co-construction de l'objet technique aujourd'hui par les historiens et les ingénieurs. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire environnementale, mais si l'histoire environnementale prend un tel élan, c'est parce que les débats actuels sur le climat, le réchauffement climatique est-il d'origine anthropique ou d'origine cosmique, etc., mobilisent des données historiques sur le climat. Et du coup, alors qu'il n'y avait que le roi Ladurie à l'époque et qui faisait de l'histoire du climat, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui arrive pour faire l'histoire de l'évolution du climat dans la région d'Anjou, etc., ou dans la région Île-de-France. Donc, il y a une vraie co-construction de l'objet climat. Et symétriquement, je parlais de l'histoire des matériaux. Un autre exemple, c'est que un des gros, gros problèmes aujourd'hui dans l'innovation en matériaux, c'est la question du vieillissement des matériaux. Et donc, on convoque les historiens et les archéologues pour essayer de voir comment les Romains s'y sont pris pour faire des ciments qui résistent pendant 2000 ans, alors que les ciments actuels, les ciments et les bétons qu'on fait, ne résistent pas plus de 50 ans. Donc on voit comment l'historien est convoqué même pour l'innovation. Dans les deux cas, c'est vraiment une co-construction de la culture.
Deux thèses viennent d'être soutenues dans les derniers mois. On parlait du climat, sur les éoliennes, sur les aérogénérateurs, et qui montrent combien que ces éoliennes, certaines, il y avait même au Danemark, si je me souviens bien, même au Danemark, donc au début du XXe siècle, des éoliennes qui étaient capables de fournir l'électricité de manière autonome des régions proches des campagnes. Donc ça voulait dire quoi? Ça veut dire que quelque part, cette autonomie, cette production autonome sur laquelle on revient aujourd'hui, était déjà maîtrisée du point de vue du développement durable, puisqu'on servait du vent pour fournir l'électricité, deux petits villages, etc. Donc voilà, donc l'histoire technique montre aussi qu'on a peut-être à lire dans le passé et prendre des connaissances du passé pour les reporter de manière un peu plus contemporaine. Est-ce que tu disais sur le ciment, aujourd'hui on sait qu'on a besoin, bon, EDF a besoin par exemple de savoir le vieillissement des socles de ciment sur les poteaux pour pouvoir projeter une maintenance, etc. etc. Et voilà, et donc c'est aussi vrai dans la métallurgie, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Bon, je crois donc tous les trois, vous avez, si je ne m'abuse, insister sur l'accueil positif qu'il faut avoir à l'égard de l'actualité, des thématiques contemporaines, du rôle que peut avoir, vous avez insisté aussi sur la construction, c'est-à-dire sur le fait que l'historien des sciences et des techniques a à travailler avec celui qui fait les maquettes d'enseignement, à travailler avec l'ingénieur ou le climatologue. Donc je pense que là, ça ouvre pas mal de questions par rapport à la redéfinition des rôles, pas seulement vous avez insisté sur les objets, le type d'objet qui change, etc., mais aussi par rapport au rôle. Voilà, je pense que ça peut susciter des questions dans la salle.
Là, effectivement, moi, j'ai souligné les points sur lesquels je trouvais que c'était intéressant de le suivre. Je n'ai pas indiqué ceux pour lesquels ça ne m'intéressait pas de le suivre. Par exemple, justement, moi, on pourrait dire que j'ai travaillé aussi pendant 20 ans sur la question animale. Et la dernière fois que j'ai fait un cours sur l'animal en licence, j'avais que des questions sur le végétarisme, etc. Et j'ai arrêté de faire ce cours, en fait. Parce que ce qui m'intéressait en revisitant l'histoire de la métaphysique de l'animal, c'était pas uniquement de savoir si on avait le droit de les manger ou pas, quoi. Il y a autre chose qui se joue dans le rapport à l'animal. Et n'étant pas en posture de faire passer ce message, parce que la seule réponse qui compte, c'est est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas, j'ai préféré arrêter ce cours. Donc maintenant, je parle de Dieu à la place.
Est-ce qu'on peut manger Dieu? Alors,
dans la transsubstantiation, oui.
Mais s'il n'y a pas de questions tout de suite, j'aimerais revenir en étant peut-être un petit.
Je voulais poser une question à Madame Bensaud. J'aurais presque dit Bernadette, c'est un prénom qui me plaît beaucoup, c'est celui de mon épouse. Alors. Le tout début de l'exposé m'avait un petit peu intrigué quand vous avez parlé du brouillage entre les sciences et les technologies, du brouillage entre les disciplines. Mais j'ai assez rapidement compris ce que vous vouliez exprimer. Au fond, quand on regarde ce brouillage, c'est un signe de progrès entre les sciences et les technologies. C'est aujourd'hui le progrès qui interpelle les disciplines sur un objet technologique, vous l'avez dit, ou bien même sur des objets naturels. Je donne trois exemples. Les instabilités de combustion dans les moteurs fusées, ça c'est un bel objet technologique, mais là on a besoin de mécaniciens des fluides réactifs, de spécialistes des matériaux. C'est vraiment quelque chose qui est pluridisciplinaire et on a à gagner en connaissances réciproques entre les mécaniciens des fluides, les thermiciens et les spécialistes de la réaction. Il y a eu des progrès de connaissances acquis en travaillant ensemble sur des objets technologiques. Deuxième exemple, c'est on parlait de la pile à combustible à Belfort en particulier. Eh bien, la pile à combustible, c'est un bel exemple où doivent converger des connaissances de chimie, de matériaux, de mécanique des fluides, de transfert de chaleur. Alors, allez-vous dire, mais c'est des objets technologiques. Le dernier exemple, c'est les cyanobactéries qui sont là envisagées comme productrices d'hydrogène. Vous parlez d'hydrogène pour l'avenir. Eh bien, il nous faut de la biologie probablement moléculaire, avec en même temps de la chimie et peut-être même du génie génétique. Voilà, les disciplines sont donc interpellées à la fois sur les progrès liés aux avancées technologiques et aux avancées à l'appropriation d'objets naturels. Mais allez-vous dire, c'est peut-être excessif de voir maintenant la nécessité de n'avoir que des projets où les disciplines se croisent. Ce serait dramatique probablement si on ignorait les besoins de poursuite, de renforcement des connaissances au cœur même des disciplines. Si je prends la pile à combustible, eh bien, en 10 ans, une douzaine d'années, on a pu améliorer son rendement et du moins sa dépense en platine, en catalyse, parce qu'on est revenu dans le laboratoire une fois qu'on a vu que c'était un des points clés de la pile à combustible. Alors, on ne peut pas échapper à cette pluridisciplinarité, à cette mise en commun de connaissances. Il faut dans le même temps probablement continuer de développer le cœur des disciplines, mais, et c'est le dernier point que je voulais souligner, vous avez bien raison, il ne faut pas que cette vision pluridisciplinaire engendre des difficultés pour nos étudiants. On manque terriblement de commissions interdisciplinaires. C'est au CNRS, c'est vrai aussi au CNU. Donc le projet est certainement dans l'ensemble un projet où il faut faire converger les disciplines, mais attention de ne pas mettre face au concours de recrutement des gens qui auront des difficultés à être évalués au moment du recrutement et au-delà de ça, au moment de la carrière, avoir de justes promotions.
Je veux répondre
oui, juste un mot à propos de l'interdisciplinarité qui est forcée et obligée en histoire des sciences. Nous sommes un certain nombre ici à avoir siégé à la commission 72 du CNU. Or, c'est une des plus petites commissions du Conseil des universités, la plus petite juste avant les langues régionales, mais c'est la plus interdisciplinaire que je connais, c'est-à-dire celle où il y a le moins de querelles de chapelle et où il y a la plus large ouverture et des gens qui viennent de toutes les disciplines de formation au départ.
Merci. Une question ?
Moi, j'ai une question. On parle beaucoup de matériaux, d'objets, d'instruments, de techniques. Quid de notre société de plus en plus matérialiste ? Est-ce que, pour vous, le fait que notre société voilà, soit de plus en plus matérialiste, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, ça change quelque chose dans ce regard de l'histoire sur les objets aussi ?
Je peux répondre ?
Oui, bien sûr.
Je ne veux pas monopoliser la parole. Je ne pense pas que notre société soit matérialiste. Je la dirais plutôt consumériste. Mais elle est plutôt, au contraire, en pleine dématérialisation, c'est-à-dire qu'elle croit que les objets de consommation ne coûtent pas de la matière et de l'énergie, qu'on peut envoyer des mails comme ça à l'autre bout de la planète et traverser les océans et à zéro coût. Et un des gros problèmes, c'est justement qu'on n'est pas assez matérialiste, excusez-moi.
C'est pour Monsieur Lamarre. Je vous remercie de vos interventions à tous les trois. Monsieur Lamarre, j'étais étonnée que dans votre laboratoire, il y ait de la philosophie, de la sociologie, etc. Parce que pour avoir organisé des journées d'études avec des étudiants ou organiser des conférences d'étudiants qui étaient sciences pour l'ingénieur dans les premiers temps, ça posait quelques difficultés. Après, on était un peu rodés. Ils avaient une notion très utilitariste de la science et de leur approche, parce qu'en fait, contrairement à ce que vous avez dit, les historiens des sciences, philosophes des sciences, ils sont sûrs d'avoir un travail à la fin. C'est l'impression qu'ils me donnaient. Donc, étant donné que dans leur discipline, en travaillant sur des objets, leur permettait justement de par l'histoire des sciences de l'ingénieur d'obtenir un travail, il y a des questions qui ne se posaient pas. Et pas pour tous, ça dépendait aussi de leur culture, mais quelquefois, ils n'étaient pas ouverts aux questions philosophiques, c'est-à-dire aux questions sur leur discipline. Et l'histoire des sciences et philosophie des sciences sur de l'homme permet de poser les questions sur les disciplines. et j'avais l'impression d'un carcan, de quelque chose d'assez fermé. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'organisais, quand nous organisions des journées en direction des étudiants, je faisais beaucoup de provocations, justement, en convoquant les autres communautés. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur ?
Alors, moi, je suis prêt à vous envoyer mes étudiants. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on ne réussit pas à tous les coups. Il faut aussi le reconnaître. Donc, les sortir d'une norme admise, ce n'est pas forcément facile. Mais je voudrais quand même signaler que les trois universités technologiques, il y a d'autres endroits en France, hein, mais les trois universités ont formé un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle le GIS-UTSH, donc en unité technologique pour les sciences humaines et sociales en milieu technique. Et donc les trois établissements donc, travaillent sur des thématiques communes justement pour entretenir cette dimension-là et puis pour la faire savoir. Donc aujourd'hui, ce petit GIS est en train de s'ouvrir. Et il y a un colloque à Cerisy qui va avoir lieu au mois de juin, qui va essayer d'agréger d'autres, on va dire, d'autres collègues et d'autres courants sur ces grands objectifs-là. Voilà, juste pour vous dire que le challenge n'est pas facile. Je n'ai surtout pas dit qu'on réussissait, mais il y a quand même de beaux cas qui peuvent émerger. Voilà.
Merci. Juste une dernière question par rapport à ce que vous avez dit sur les transversalités, les coopérations, etc., au risque d'être un peu provocateur, parce que la notion de co-construction me paraît être très horizontale. Et il me semble que malgré tout, nous sommes dans des rapports aussi de pouvoir, aussi de verticalité et aussi de rapports de force importants. Au risque de paraître peut-être paléo-marxiste, dirait Pietro, il me semble que sur ces enjeux, pas pour moi, mais je me dis comment je comprends à la fois l'intérêt, le caractère stimulant, etc. Comment se gère aussi ce rapport-là ?
Je vais répondre.
Vas-y. Non.
Alors, simplement par rapport à cette question. C'est une question qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la notion de démocratie technique. C'est-à-dire, c'est une notion qui aujourd'hui, on la voit commencer à émerger, commencer à être travaillée, etc. Donc, on n'était pas les premiers. Mais voilà, c'est une question de démocratie. Alors, c'est le rôle par rapport au pouvoir. C'est vrai que l'ingénieur a une commande. C'est vrai ce que tu disais, Bernadette. C'est le marché. Il y a le marché de l'ANR, mais puis il y a le marché de la commande technologique. Donc, on est tout à fait, on va tout à fait dans ce sens-là. Alors, le phénomène de la construction, je pense qu'on est aujourd'hui plutôt dans une prise de conscience qu'il y a des paramètres plus ou moins implicites qui vont modifier les trajectoires d'objets techniques. Et donc, c'est finalement, c'est finalement quelque part renier cette question du pouvoir. Mais c'est progressif. On est dans cette prise de conscience-là. Je crois qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus de démocratie citoyenne. Que l'expert est de plus en plus obligé de se confronter à la perception des publics pour pouvoir rendre, etc. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste que vous par rapport à ça. Je crois que petit à petit, cette question de le pouvoir cède par la force des choses, par ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire cette demande de mieux comprendre, cette demande d'intervention, cette demande qui est aujourd'hui un peu plus conscientisée et acceptée finalement. Voilà.
Je pensais à ça notamment par rapport à cette question des ciments que je trouvais intéressante, à laquelle on pourrait aussi objecter l'obsolescence programmée. Oui.
Exactement, mais je pense que l'obsolescence programmée, c'est un mythe. J'ai justement une thèse qui se termine là-dessus. Enfin, pas moi, une de mes étudiantes qui fait une thèse là-dessus.
Elle a commencé une nouvelle thèse.
Non, l'obsolescence programmée est un mythe. L'obsolescence elle est acceptée depuis le 18e siècle. Elle est pensée, assumée. Et on n'a pas un objet jetable. Mais quand on fait fonctionner toute l'économie sur la base de l'obsolescence. Et là, c'est une des alertes précisément qu'il faut lancer quand on est historien des sciences. C'est un mythe qu'elle est intentionnelle et qu'il y a des méchants qui le font. Voilà, c'est ça qui est le mythe, c'est que c'est une pratique non dissimulée qu'on fait pour renouveler. C'est ça qui est un mythe. Mais elle est effectivement programmée parce qu'elle est inscrite dans tout le capitalisme. Le capitalisme ne fonctionne que parce que les machines ne fonctionnent pas longtemps.
Pourquoi c'est un mythe si c'est programmé ?
Mais non, ce qui est un mythe, c'est de croire qu'il y a une conspiration de méchants qui le font par derrière. C'est ça. Non, elle est faite de manière consciente, assumée et publique. C'est ça que je veux dire.
C'est une nécessité.
C'est une nécessité de l'économie. Voilà.
Ils l'ont objectivement caché.
Mais aussi les voleurs pourraient dire que c'est une nécessité de tricher.
Oui, c'est ce que disait Diderot d'ailleurs. Dans le système où on est, Diderot dit c'est normal.
Je ne sais pas si vous avez ces problèmes, mais à Oxford, il y a ces problèmes avec les machines MEC, dont la programmation d'obsolescence est tellement vite que les facultés ne peuvent plus penser de substituer ces machines tous les 2 ans parce que ça coûte trop cher. Et il y a des causes légales intentées contre Apple. Donc, oui, c'est une pratique capitaliste, mais qui a des limites dans le fait qu'on se prend en jeu des clients, ou non.
Tu veux parler de l'obsolescence du site Lamarck ou
Ça, c'est déjà fini. Je veux dire, les ordinateurs qui ont une programmation de plus en plus rapide. Et ça, c'est contre les contrats de vente. Donc, il y a des cas légaux. Non, peut-être nous parlons en cross-purpose, je ne sais pas. Mais je trouve difficile d'appeler ça mythe.
Non, ce qui est un mythe, c'est que ça serait une pratique cachée. Ce qui est un mythe, c'est de croire que ça serait une pratique cachée, mal intentionnée. C'est une réalité inscrite dans notre système économique.
L'analyse comme étant une caractéristique du capitalisme. Apple n'affiche pas comme son programme auprès de sa clientèle qu'il pratique l'obsolescence programmée.
Non, il te dit qu'il va te donner quelque chose de plus puissant et de mieux.
Surtout, il supprime des prises.
Voilà, je pense.
En tournant rond, là. Raphaël ?
Oui, non, juste, il ne s'agit pas de l'obsolescence programmée dans ce que je voulais dire, mais c'est d'une certaine manière prolonger l'intervention de Wolf au sens où la prise en compte des rapports de force, des rapports de pouvoir, des asymétries, conduirait aussi à compléter la question qui a été posée, qui a été celle de la table ronde, par l'inverse. Comment l'histoire des sciences s'empare-t-elle des thématiques contemporaines ? Comment les thématiques contemporaines s'emparent-elles de l'histoire des sciences ? Bien sûr, là, parmi les pistes à suivre, il y a la piste du fric, ça, on l'a tous compris, on le sait, on fait avec tous les jours. Mais quand je pose cette question-là, et que j'ai envie de résister, et j'ai aussi envie d'aller retrouver les grammairiens de Pietro, ça fait un bien fou.
Il y avait une question derrière, monsieur. C'est fini ?
Résistance.
C'était sur l'obsolescence ?
Ouais, c'était juste un point sur l'obsolescence pour rebondir par rapport à ce que disait Bernadette Bensaud-Vincent. Je suis plutôt d'accord avec vous parce qu'il faut reprendre historiquement, notamment il y a le cas classique des ampoules, de l'histoire de l'obsolescence programmée des ampoules. On a une lecture forcément négative de la notion d'obsolescence programmée, mais il y a une logique derrière, et notamment sur la question des ampoules, on se rend compte que des ampoules qui durent très très longtemps, on est capable de le faire. Et au début, il y a une indignation sur le fait qu'on ne le fasse pas, c'est-à-dire qu'on dit au bout de 1000 heures, les ampoules meurent alors qu'on pouvait faire des ampoules qui duraient beaucoup plus longtemps. Et la réalité, c'est qu'il y a une baisse de la consommation, il y a une augmentation de la consommation, il y a une baisse de la luminosité. Et donc l'obsolescence programmée, qui est quelque chose qu'on lit de façon a priori comme négative, a des fois des vertus positives pour le consommateur. Donc je pense que c'est compliqué d'avoir une lecture forcément comme ça. Après, évidemment, quand c'est le cas d'Apple qui fait exprès de mettre un software trop lourd pour le hardware et pour que les gens renouvellent leur téléphone, c'est pas tout à fait la même chose que
Le problème, c'est peut-être pas donc l'obsolescence, c'est le fait que derrière, les produits obsolètes ne sont pas recyclés, ne sont pas et qu'ils sont juste envoyés à la poubelle. C'est là que le gaspillage des ressources.
Non, on est d'accord.
En tout cas, ça montre que les objets nous font penser.
Merci beaucoup. Donc, il est temps de faire une pause, hein, c'est ça? Voilà, prévu en haut. Merci beaucoup. Nous allons donc reprendre avec ce dernier round, dernier mais last but not least, hein, comme on dit, le plus important, l'avenir. L'avenir de l'histoire des sciences avec des acteurs de cet avenir. C'est plus nous, nous on est dans le passé. Et c'est très bien comme ça. Donc je vais donner tout de suite la parole. Alors est-ce que vous avez un ordre préféré?
On n'a rien du tout.
Vous n'avez rien du tout, rien. Bon. Vous n'êtes pas concerté.
On a quelques notes. On a discuté un peu, mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était difficile. Enfin, c'est pas pour dire que votre travail à vous était plus facile, mais quand on a travaillé pendant 30 ans ou 40 ans sur l'histoire des sciences et qu'on réfléchit et qu'on nous demande.
Pas encore, quand même. Hein, là,
non, pas vous. Je parle de vous. C'était un vous collectif. Ouais. Et qu'on vous demande de réfléchir sur les thématiques de l'histoire des sciences, et un trajet en train peut suffire à réfléchir à ce qu'on va dire. C'est quand même.
Mais un train qui, quand même, a pris du retard. Hein.
Oui.
Je rassure. Alors, juste pour être sûr, Mathilde Frémont, qui est doctorante en histoire des sciences au laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique. Donc, c'est encore un point de vue qu'on n'a pas nécessairement tellement abordé. Donc, ce qui peut être aussi intéressant de voir le rapport avec la didactique et les sciences de l'éducation générale à l'Université de Montpellier. Benjamin Leroux, qui est doctorant à l'Université de Bordeaux au sein de l'EASPH. Et puis, excusez-moi, vous êtes
Thomas Morel.
Thomas Morel, qui est donc historien des mathématiques et maître de conférence à l'ESP Lille Nord de France, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Bon, bah, écoutez, on vous laisse tout de suite la parole, dans l'ordre que vous voulez, puisque vous n'en avez pas décidé. Vous pouvez tirer à pile ou face.
Bon, je veux bien commencer, notamment pour revenir sur un petit point de détail sur l'avenir de la discipline, notamment sur une question un peu pragmatique sur les thèses. On en discutait avant, puisque donc je suis doctorant en histoire des sciences, mais je ne suis pas doctorant, puisque pour des raisons administratives, l'école doctorale à laquelle j'appartiens refuse les inscriptions des doctorants qui n'ont pas fini leur manuscrit lorsqu'ils dépassent la troisième année. Et donc, par exemple, quand on est dans une discipline où rarement les thèses font 3 ans, ça pose problème. Et donc, notamment dans les universités et dans les collèges de sciences et techniques, la question de la durée des thèses, de la nature des thèses, en fait, de ce qu'on attend d'un doctorant dans notre discipline, je pense qu'il faut. C'est un point de départ de la réflexion. Donc, par exemple, là, administrativement parlant, mon labo m'a permis d'avoir accès en me donnant un statut qui existe administrativement mais qui veut rien dire d'un point de vue scientifique pour avoir accès aux locaux, pour avoir accès aux ressources documentaires, mais parce que l'université aujourd'hui attend des thèses en 3 ans et que notre discipline n'attend plus vraiment des thèses en 3 ans, enfin n'a jamais attendu des thèses en 3 ans.
Alors, juste une question pour qu'on soit sûr de bien comprendre, c'est pas pour vous interrompre. Donc, vous êtes inscrit en thèse dans une université de sciences, c'est ça ?
Oui, dans un collège sciences et techniques. Oui.
Dans un collège sciences et techniques, qui donc n'a pas la procédure des comités de thèse qui permet de prolonger la thèse au-delà de 3 ans.
Alors, si, mais c'est soumis au vote de la commission, et s'il n'y a pas financement ou dépôt du manuscrit, il bloque l'inscription, et en fait, il la réautorise au moment de la soutenance. C'est une forme de pression symbolique mise au doctorant en lui disant... si t'as pas ton manuscrit, tu te réinscris pas et c'est la fin de ta thèse. Donc c'est juste pour dire que par exemple, l'un des points de réflexion qu'on ne pourra pas clarifier aujourd'hui, je pense, mais sur l'avenir de la discipline, ça serait bien par exemple que sur ce qui est attendu à la fin de la thèse, notamment par le CNU dans la nature de la thèse, la durée qu'elle a eue, donc la longueur qu'elle fait, mais qui est par exemple une réflexion sur ce qui est attendu et ce qui est possible d'un point de vue de la démarche. Mais je crois que tu voulais rebondir sur.
Oui, enfin, la situation est quasiment la même pour moi. Quand on est doctorant, enfin, moi, j'ai eu la chance d'être dans une école doctorale en sciences humaines et sociales qui m'a permis d'avoir un contrat, ce qui n'est pas le cas des 3/4 des doctorants qui sont dans l'école doctorale à laquelle j'appartiens. Donc, je fais partie des chanceuses. Et je me suis dit, j'ai de la chance, j'ai un contrat pour mes recherches, pour mener à bien ces recherches, et je vais pouvoir me consacrer à ça pendant 3 ans. Contrairement à beaucoup de collègues qui sont enseignants et qui font une thèse en parallèle
de leur profession. Et du coup, je tenais véritablement à faire ma thèse en 3 ans, en me disant j'ai cette chance-là, il faut que je me donne les moyens de le faire en 3 ans, c'est le temps qu'on m'a donné, on m'aide pour y arriver, il faut que je le fasse. Bon, malheureusement, ça n'a pas tenu en 3 ans, et on m'a plus ou moins expliqué que tu comprends, une thèse en histoire des sciences, 3 ans, c'est un peu juste, songe à rester un peu, mais après on fait quoi quand on n'a plus de financement proposé ? Et c'est vrai que c'est une réflexion qu'on avait justement, ben, soit on part du principe qu'une thèse en histoire des sciences, ben, elle mérite un petit peu plus de temps que 3 ans, ça peut, c'est possible d'imaginer ça, ou alors est-ce que la chose attendue au bout de 3 ans, ben, ou est-ce que la thèse en elle-même, les attentes peuvent être modifiées. Est-ce qu'on est obligé d'écrire 500, 400 pages alors que peut-être 250 pourraient suffire, et même à la limite ça pourrait faire valoir un côté, un aspect un travail synthétique qui est une compétence pas forcément toujours simple à avoir aussi.
Alors malheureusement je ne veux pas répondre positivement à vos angoisses. C'est un débat aujourd'hui qui a eu lieu au niveau de la CPCNU, qui réunit l'ensemble des sections. Il y a une commission de travail sur les doctorats et les HDR, et on voit bien que la culture SHS est complètement écrasée par la culture science, au sens pur, ou science de l'ingénieur. On m'a répondu textuellement qu'il fallait qu'on donne des sujets qui soient moins chronophages. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on réduise les, en gros, réduire la problématique. Voilà, c'est la, officiellement, c'est ce qui était dit dans ce mandat à la CPCNU. Donc, ce n'est rien de rassurant, absolument rien de rassurant. Et quand on sait qu'une thèse en SHS a besoin de temps, on brasse du matériau que ne brasse pas, hein, quand on fait des expériences de laboratoire, c'est pas la même chose que d'aller à 100 km ou aller chercher des archives ou passer du temps sur les entretiens, c'est chronophage, eh bien ça ne veut pas être entendu du point de vue administratif. Et aujourd'hui, nous sommes en situation de fragilité sur ces questions-là. Voilà, je voulais simplement témoigner, pardonnez-moi de m'être introduit dans ce débat, mais je vais partir, c'est pour ça.
Alors, Pietro, tu veux aussi ajouter quelque chose ?
Bah, non, non, mais c'est...
On vous redonne la parole juste après, Pietro.
C'est juste qu'on discute, il n'y a pas de... Tant mieux.
Ceux qui travaillent en France et ailleurs sont toujours frappés par les thèses françaises. J'assistais récemment à une thèse, pas une thèse, hein, la présentation d'un jeune collègue. La collègue qui les présentait disait « Messier machin, machin ». A rédigé une thèse de 1600 pages, il l'a interrompu, il a dit non, 1667. Alors j'ai dit à mon voisin qu'à Oxford on appelle les services psychiatriques de l'université pour prendre les soins. C'est un mauvais jeu, mais il faut que collectivement on s'interroge sur ce que c'est une thèse. À Oxford c'était la même chose, ce qui vous parle a mis 8 ans à faire sa thèse à Oxford. C'est vrai, entre temps je devrais apprendre l'anglais, mais j'ai mis 8 ans. Aujourd'hui, on pense collectivement en Angleterre que c'est au désavantage des élèves de faire une thèse sur 4, 5, 6 ans. Et donc, l'idée, c'est de revenir à l'idée de la thèse. Ça veut dire l'élève doit défendre une thèse, doit démontrer la capacité de parcourir un thème et de fournir une interprétation. Et c'est 3 ans. Et après, on suspend l'état d'étudiant pendant 6 mois, 7 mois, si l'élève a besoin de 6 ou 7 mois. Mais on est arrivé à la détermination de faire ça. C'est très difficile. Il y a eu des résistances. Mais où on change l'idée de qu'est-ce que c'est une thèse, où vous êtes exposé à... On vous met en difficulté. Ça, c'est clair. Mais
surtout, je me permets de rebondir sur ça. Surtout que, par exemple, se pose la question des financements. Il y a des universités où on ne peut pas se réinscrire si on n'a pas de financement. Ça paraît un peu baroque. On a travaillé pendant 3 ans. La 4e année, on n'a pas de bourse pour la 4e année. Il n'y a pas de bourse. Pour protéger le doctorant, on lui interdit la réinscription. Ça pose des questions au niveau notamment de l'intégrité scientifique. L'une des problématiques que je traite dans ma thèse, c'est parce que je fais une biographie et que la personne sur laquelle je travaille est un croyant, c'est la question de science et religion, comment s'articule science et religion dans l'œuvre de quelqu'un qui le fait concrètement. Donc je travaille là-dessus, et même moi, à ma petite échelle, je me suis vu proposer une bourse, alors qui était petite, de 500 euros, qui était un financement direct de la fondation Templeton, donc qui est une fondation, pour ceux qui ont lu L'impossible dialogue d'Yves Ingrasse. Et donc c'est une fondation de chrétiens évangéliques qui finance des projets que certains qualifieraient d'entrisme, et je me suis vu proposer cette bourse-là. Et je pense sincèrement que si j'avais collaboré avec les gens qui m'ont proposé cette bourse-là, j'aurais pu avoir l'opportunité d'avoir un financement pour ma quatrième année, et donc de me réinscrire à l'université sans aucun problème. Donc là, après c'est le rapport personnel, mais voilà, donc derrière cette espèce de situation précaire et qu'on laisse un peu, parce que finalement on se débrouille, on y arrive, mais il y a des vrais, je pense qu'il y a, on va pas pouvoir continuer enfin c'est pas continuer, non pas qu'il y ait une intention, mais c'est un peu un non-dit sous le tapis
Oui. Juste une question pour être sûr d'être clair, parce que je pense qu'il y a des gaps générationnels qui font qu'on n'a pas vécu les choses de la même manière, et donc je voudrais être sûr qu'on parle de vraiment des mêmes situations. Je pense que les choses évoluent quand même considérablement actuellement là-dessus. Il me semble qu'il y a deux choses. Enfin, moi, à mon époque, pour un certain nombre d'entre nous, je pense qu'on est plusieurs dans la salle à être ce cas, voilà, on passait un concours de lanceur d'enseignement quand on est dans un système français formé là-dedans, etc. On passe un concours d'enseignement secondaire, on enseigne dans le secondaire, ou alors on a une bourse, un monitorat dans le supérieur, et on fait sa thèse comme ça, et au pire, on l'a fini dans le secondaire, ou alors on l'a fait entièrement dans le secondaire, etc. Et bon, voilà, à l'ancienne mode. Et puis, je ne sais pas si ça existe encore beaucoup, mais de plus en plus, j'entends l'idée que, en fait, il faut faire en SHS la même chose qui s'est passée en biologie il y a 15-20 ans, c'est-à-dire refuser l'inscription des doctorants qui ne seraient pas financés. Ce qui a été une énorme révolution en biologie, et ce qui potentiellement serait une immense révolution dans nos domaines, puisque, ne serait-ce qu'à l'échelle de Coiré, nous avons un nombre de doctorants qui ne sont pas financés qui est considérable. L'idée n'est pas de ma part de me prononcer là-dessus, mais je voulais juste dire si vous ressentez, vous avez aussi ce type d'écho, et que vous êtes aussi confronté à ce genre de choses, ou est-ce que c'est des injonctions que vous avez connues ?
Si vous êtes dans un collège sciences et techniques, en tout cas dans la plupart des universités, si vous êtes dans un collège sciences et techniques, c'est le cas. On vous dit une thèse, c'est 36 mois, c'est financé pour les 36 mois, à hauteur minimum de 900 euros par mois, parce qu'ils essayent de trouver des moyens de trucher un peu, mais l'idée c'est de dire le doctorant ne doit jamais être sous le seuil de pauvreté pendant la durée de sa thèse. Et c'est un peu, bon, je raconte mon expérience personnelle, mais donc j'ai passé un concours, un oral devant un jury qui m'a permis d'obtenir ma bourse de thèse. J'ai travaillé pendant 3 ans, et parce que on a des bons rapports avec les membres du jury et que les gens du labo ont expliqué les spécificités de notre discipline, ça se passe bien, et ils comprennent, ils tolèrent un peu. Mais si on était, si on tombe sur un directeur 2D qui veut respecter à la lettre pour ne pas se faire remonter les bretelles par l'HCERS, il pourrait dire, à la limite, un abandon de thèse vaut mieux qu'une thèse en 50 mois où il y a eu 18 mois non financés. Mais après, bon, je ne vais peut-être pas monopoliser le...
Et puis en même temps, tu as lancé un sujet peu chaud.
Un peu touchy, d'entrée. Ouais.
Le statut des doctorants, ce n'est pas uniquement cette question de la réinscription, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon université, les doctorants de ma discipline se présentent comme des enseignants-chercheurs précaires. Pour moi, de mon époque, être doctorant, c'était être étudiant, c'est-à-dire aspirer à avoir un bac plus X. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les doctorants sont soumis à sont considérés comme des enseignants-chercheurs, surtout ceux qui ont la possibilité d'enseigner par ailleurs. Et donc, ils sont représentés dans nos laboratoires, ils ont énormément de droits, on les incite à organiser des colloques, à faire des publications.
On les oblige même.
Moi, je suis surpris parce que, étant doctorant, j'étais extrêmement humble, ça va surprendre Pietro, J'étais étudiant, en fait. J'étais vraiment étudiant. Aujourd'hui, les doctorants sont des collègues. Voilà. Et ils ont un salaire. Tu peux pas juste dire, on nous oblige, voilà, pour dire ça, je voulais me faire un peu l'avocat du diable en quelque sorte, pour dire, on peut pas juste dire, au bout de 3 ans, on est jeté à la rue, en fait. Tu as été employé pendant 3 ans avec un salaire qui est ce qu'il est, tu as eu des conditions de travail, à la fin, tu dois rendre quelque chose. La question, c'est, est-ce que tu dois rendre quelque chose de définitif? Et ça donne là, c'est la possibilité des comités de thèse. Nous, on demande de rendre quelque chose qui est en quelque sorte le viatique pour avoir le droit de prolonger.
Juste, alors,
mais quelque chose ou quelque chose de définitif, c'est différent.
Formellement, c'est juste pour rentrer dans le détail du contrat. Dans le contrat qu'on signe, alors ça a peut-être changé. Moi, dans le contrat que j'ai signé, il y avait une obligation de moyens et aucune obligation de résultat. Donc au bout de 3 ans, dans le contrat, on est obligé de rendre rien. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir travaillé pendant 3 ans, d'avoir fait notre d'avoir étudié pendant 3 ans, mais il n'y a aucune obligation de résultat. C'est peut-être un problème dans le contrat moral qu'on signe, mais ça veut dire qu'un étudiant qui abandonnerait au bout de 2 ans et 10 mois, on ne lui demande pas de rembourser ses années. Bon, mais après, là, on part très loin sur le sujet, donc...
Ce que je veux préciser à Thierry juste, c'est qu'il faut comprendre que, par exemple, à Bordeaux, on ne peut pas faire de thèse si on n'a pas de financement. C'est-à-dire que je veux bien qu'ils signent un contrat et qu'au bout de 3 ans, ils sont censés rendre quelque chose. Mais le problème, c'est qu'un étudiant qui n'aurait pas envie, qui par avance présumerait qu'il ne pourra pas faire son travail de thèse en 3 ans, il ne peut pas s'inscrire en thèse. Point. Donc c'est, je pense au centre Coiré, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, il ne peut pas y avoir de doctorants non financés. C'est-à-dire, c'est devenu complètement pervers, cette affaire. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Enfin, il faudrait vraiment que ce soit harmonisé, parce que là, ça devient absurde. On finit par former des étudiants en master qui finalement vont s'inscrire ailleurs en thèse, puisqu'on ne peut pas absolument pas leur offrir de conditions.
Il me semble que ça
conditions.
Repose la question de là où est située l'histoire des sciences. Est-ce qu'elle est en sciences ou est-ce qu'elle est en SHS? Et je pense qu'on est dans un héritage de ça. En fonction de la position, le type de contrat n'est pas le même et l'obligation n'est pas le même. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça.
Mais bon.
Oui, non, ouais, et bien sûr, il faut bien
Monsieur Vrel a déjà fini, donc
il est sorti.
Comme quoi on s'en sort.
Oui, alors déjà, je trouve. Je trouve ça assez intéressant qu'on finisse par parler de ça, puisque c'est un aspect qui peut sembler un peu trivial. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de théorie, d'historiographie, d'orientation. Mais quand on parle de l'histoire des sciences aujourd'hui, c'est-à-dire la manière concrète dont elle est faite, en fait, c'est des choses qui conditionnent la vie d'un certain nombre de personnes. Et on l'a entendu un petit peu dans les discours de Pierre Lamarre, de Patrick Maten, de Bernadette Bensod, de Vincent, les collègues plutôt à l'université. Mais sinon, c'est vrai que les conditions de production dans les faits de la recherche sont assez peu évoquées, alors qu'elles conditionnent dans les faits aussi le contenu dont on parle. Donc je vais peut-être juste rapidement faire ma biographie, qui est un tout petit peu plus longue, parce qu'elle éclaire des quelques aspects, même si elle n'est pas très représentative de ce qu'est être un jeune chercheur aujourd'hui. J'ai fait ma thèse en province, avec un contrat là aussi de 3 ans, même si je n'ai pas fait une thèse en 3 ans, sous la direction d'un auguste professeur ici présent. Je suis d'ailleurs intervenu une première fois à l'Espace Mendès France il y a 7 ans. Devant, et c'est pas non plus un hasard, devant, dans le cadre de journées académiques, donc dans la formation de professeurs du secondaire, qui est là aussi un thème dont on a très peu parlé, si ce n'est Patrick Matagne, mais c'est pas un hasard, puisqu'il travaille aussi en ESPE. Et donc, à la fin de ma thèse, comme un certain nombre de gens, j'ai cherché à faire autre chose. Donc, dans mon cas, j'ai fait un post-doctorat en Allemagne, à la fois au Max Planck et à la Technische Universität à Berlin. Et ensuite, j'ai eu la chance, en fait l'essentiel des collègues qui ont été recrutés à l'université dans ces dernières années, d'être recrutés dans un ESPE, donc à Lille, avec un rattachement à Lens. Enfin, bref. Et autre point qui peut être intéressant pour le milieu plus général de l'histoire des sciences dans ma biographie, c'est que je fais partie du conseil d'administration de la Société française d'histoire des sciences, et à ce titre, je suis chargé de l'organisation des journées jeunes chercheurs, ce qui donne aussi un certain aperçu des carrières en devenir de la génération actuelle. Et tout ce qui vient d'être dit est complètement vrai. L'histoire des sujets fléchés qui ont été abordés par un certain nombre de personnes aujourd'hui, des sujets du coup qui forcément sont des sujets aussi à la mode, souvent dans le cadre d'initiatives d'excellence, où on a un package de millions d'euros et puis on va donner un peu de sciences humaines, arrivent à parfois dans des situations absurdes. Pour ceux qui sont sur la liste d'histoire des sciences de TOT, hier, il y a quand même un contrat qui est passé proposant un sujet de thèse absolument verrouillé sur, je cite, l'incidence des financements IDEX sur la trajectoire scientifique des chercheurs. Donc là, on est dans un système qui se mord complètement la queue, où on va payer un doctorant pour étudier si les financements IDEX sont
l'IDEX qui paye, j'espère.
C'est l'IDEX qui paye, mais je me demande par contre... Oui, mais si... On a la réflexivité, mais on se demande si le doctorant arrive à prouver que les financements IDEX sont une mauvaise chose, où est-ce qu'il va candidater dans le cadre de son post-doctorat. Et ça, on rejoint les questions d'autonomie intellectuelle qui ont été soulevées par Pietro Corsi, qui sont assez importantes. Les qualifications, me semblent, si on continue dans la trajectoire du jeune chercheur, pas être le principal problème actuel, puisque le CNU, dont parlait Pierre Lamarre, fait plutôt bien son travail. Mais ensuite, on arrive dans des problèmes très concrets. Pour les collègues qui sont dans le secondaire, par exemple, il y a des consignes extrêmement claires pour pallier le manque de postes, de refuser systématiquement les congés recherche pour les collègues du secondaire, ce qui a une incidence terrible pour les gens qui ont un cursus classique universitaire, puisque quand on a fait des grandes écoles, on peut s'en sortir, mais sinon, on n'a pas de congés. Et en plus, on est dans une hésitation actuellement entre le modèle européen maintenant relativement classique de post-doc de longue durée, où on est jeune chercheur pendant 5-10 ans après sa thèse, qui n'a pas vraiment pris en France, où on reste sur un modèle d'ATR relativement en cours, où on peut être détaché 2 ans. Et on le remarque dans les journées jeunes chercheurs, le public, on a de plus en plus de jeunes chercheurs qui sont jeunes chercheurs depuis un certain nombre d'années, sans même bénéficier de l'abondance de contrats précaires qu'il y a dans d'autres pays européens. Donc on voit vraiment qu'on est dans un moment de bascule. Et ça, je pense que c'est à mettre en place avec... c'est à mettre en relation avec la question de la dimension nationale ou internationale de l'organisation des carrières. Et là aussi, je trouve qu'en France, on hésite entre deux modèles. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la valorisation de la dimension... international, surtout si c'est dans une grande université américaine, alors que dans les faits, c'est relativement peu recommandable. Alors, moi, ça m'a apporté chance, mais je pense que ça, c'est pas forcément ça qui a joué. Mais dans les faits, pour trouver un poste, il vaut mieux rester dans un grand laboratoire, cultiver ses réseaux parisiens ou autres, et aller à l'étranger, et en général, pas spécialement bon, ni même d'ailleurs pour son avancement. Et pour terminer juste et arriver au jeune chercheur en tant que tel, donc le jeune maître de conf, je suis le seul puisque Jenny Boucard qui travaille à Nantes aurait dû être là mais ne pouvait pas venir. On voit aussi que les universités doivent faire des choix. Pour donner deux exemples complètement opposés, Lyon 1, pour nommer les bons exemples, université de sciences dures, donc parfois les sciences dures ont du bon, impose des décharges de services importantes pendant les 3 premières années pour que le jeune chercheur prépare ses cours et continue à faire de la recherche. À l'inverse, pour prendre de mauvais exemples, et il faut les nommer aussi chez nous, à l'ESPE Lille Nord de France, un collègue, sitôt nommé, et se voit imposer un volume d'heures supplémentaires tellement important qu'il est obligé de demander une décharge ministérielle. Donc on est face à des gens qui doublent des services et auxquels on demande de continuer à avoir une activité de production de recherche. Donc au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait sûr d'être aussi enthousiaste que vous sur la tension entre l'enseignement et la recherche. Pour l'avenir de l'histoire des sciences, où veut-on que la recherche se fasse? Est-ce que l'on veut qu'elle se fasse dans des universités de province, à l'Université de technologie Belfort-Montbéliard? On voyait les spécificités dont parlait Pierre Lamarre qui sont passionnantes. On a un terrain qu'on trouve nulle part ailleurs, enfin à Compiègne, etc. Mais ces universités de technologie sont particulières. Au Centre François Viette, qui a aussi un rôle d'animation aux archives Henri Poincaré, à SPH à Bordeaux, donc dans les petites universités de province, c'est pas vraiment vers ça qu'on se dirige. Est-ce qu'on veut au contraire qu'il y ait quelques grands centres à Paris, à Harvard, à Londres, où se fasse une recherche de qualité puisqu'il y a des moyens, et qu'ensuite on ait des universités de province où on a des, comme certains collèges américains, des enseignants qui éventuellement ont une activité de recherche. Donc c'est... Il y a plein de questions. Ben, ça tombe bien parce que là, si je continuais, ça allait changer complètement de sujet. Et je pense qu'en fait, c'est déjà effectivement peut-être suffisant.
On n'aura pas le temps d'aborder beaucoup de sujets, à mon avis. Alors, juste là, j'ai besoin d'une petite question technique. Mathilde est peut-être celle qui a le moins parlé entre vous trois.
Donc on va se taire.
Laisser parler 2-3 minutes quand même. Ça me paraît la moindre des choses. Pas seulement pour des raisons de parité, mais bon. Aussi, je voudrais quand même qu'on n'apparaisse pas comme. Voilà. Et puis ensuite, on ouvre la discussion qui a déjà été ouverte.
Bah du coup, je me sens prise un peu de...
Non, mais tu peux tout à fait parler de toute autre chose.
C'est vrai. Non, bon, pour le coup, je ne ferai que répéter peut-être pas ce que Thomas vient de dire, parce que moi, j'en suis pas là. Hein. J'essaye encore de terminer ma thèse afin d'appartenir à cette grande famille de l'histoire des sciences, parce que moi, je vois... Enfin, en tout cas, personnellement, je vois ça comme ça. La thèse, c'est en quelque sorte prouver que je peux appartenir, que j'ai fait un travail suffisant et... conséquent pour appartenir à cette grande famille qui est celle de cette discipline histoire des sciences, grande et variée. Je ne saurais pas vraiment quoi ajouter, excepté peut-être que quand on m'a invitée, je vous remercie d'ailleurs grandement pour ça, à cette journée, on m'a dit il va falloir parler de... L'idée, c'est de parler de l'avenir de l'histoire des sciences. Et je trouvais ça un peu difficile comme question de me dire mais quel avenir ? Moi, je vois rien. Je suis jeune chercheuse. Je suis encore en train d'apprendre ce que c'est que véritablement cette discipline. Je peux pas parler de l'avenir de cette discipline. Et pour la petite anecdote, ça m'a fait beaucoup sourire. Je me dis en fait peut-être que justement en tant que future nouvelle recrue dans cette discipline, on parle de moi comme l'avenir. C'est un peu présomptueux aussi encore comme comme vision des journées de cette journée. Mais voilà la réflexion que je me suis fait. Si je pense qu'on est là, c'est aussi de montrer que cette discipline, elle continue quand même à vivre malgré les problèmes qu'on est en train de soulever. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et oui, on se considère peut-être, je dis on, peut-être que je devrais dire moi, comme ça je suis sûre d'inclure personne, pas seulement comme des étudiants, mais comme des jeunes chercheurs en formation. Oui, on a encore des choses à apprendre, mais qui peut dire qu'il n'est pas en train d'apprendre tous les jours dans tous les cas. Et je pense qu'on fournit quand même des connaissances en tant que jeune chercheur, et peut-être que même on a parfois un œil nouveau sur des questions que d'autres n'auraient peut-être pas pu poser à force d'être le nez dans le guidon. Voilà peut-être ce que je pourrais rajouter.
Peut-être dire sur quoi vous travaillez.
Ah oui.
Chacun, oui.
Alors pour ma part, je travaille au LIRDEF, donc un laboratoire de didactique. Mon gros lien avec ce laboratoire, c'est surtout de travailler sur l'histoire de l'enseignement. Je travaille sur les objets des collections de physique de l'Université de Montpellier. Donc par rapport à ce que disait tout à l'heure Bernadette Binceau-Vincent sur les objets et la façon de les aborder et ce qu'ils peuvent raconter de l'histoire, pour le coup, moi, c'est tout à fait mon domaine. Voilà, donc je travaille sur quelques instruments conçus, entre autres, par des savants montpelliérains. Un savant montpelliérain en particulier pour ce qui est de la physique. Pour faire court.
Et moi, je suis historien des mathématiques. Je travaille beaucoup sur les mathématiques pratiques de l'époque moderne, donc sur les mathématiques qui ne sont pas dans les milieux académiques, universitaires, les arpenteurs, les jaugeurs, les fabricants d'instruments, les techniciens. Pour essayer de voir comment des traditions se développent et interagissent avec les savoirs académiques, la société, et comment se constitue toute cette mathématisation par le bas de la société européenne.
Et juste parce que je ne travaille pas que sur science et religion, parce que c'est un peu... En fait, je fais un travail biographique sur une collection sur des archives qui ont été léguées à la Bibliothèque universitaire des sciences et des techniques de Bordeaux,
où en fait il y a toutes les archives personnelles, toutes les archives qui étaient dans un laboratoire d'un botaniste bordelais de la fin du 19e siècle. Et on a notamment sa collection complète de carnets de laboratoire, donc à peu près 200 carnets qui couvrent plus de 60 ans de sa vie scientifique. Et donc ça, c'est l'objet que j'étudie dans le cadre de ma thèse.
Et le nom du scientifique
Henri Deveau. Si. Oui, autant lui rendre hommage.
Merci beaucoup. Donc, la parole est à la salle.
Déjà, merci beaucoup pour la clarté et la lucidité de vos propos à tous les trois. Juste par rapport à ce que vous avez dit, Thomas, une toute petite précision géographique et terminologique à la fois. Vous avez parlé des grandes universités américaines. Vous vouliez dire états-uniennes, je présume.
Oui.
D'accord. Parce que je suis américain et je ne suis pas né aux États-Unis. Donc, c'est une demande que je fais régulièrement à mes amis français et européens en sens large, parce que voilà, il y a cette espèce de confusion. C'est comme si je disais les Européens pour parler des Allemands, et uniquement d'eux. Vous voyez que c'est un peu bizarre. Ensuite, par rapport à toute la problématique que vous avez évoquée tous les trois au sujet justement des thèses financées, non financées, de la durée du financement et de la taille de la thèse, évidemment tout ceci est lié. Je pense que probablement une des questions principales est celle que soulevait Mathilde et que soulignait Pietro, c'est-à-dire c'est quoi une thèse et qu'est-ce que devrait éventuellement devenir une thèse. C'est-à-dire qu'il faut choisir le point fixe, c'est la durée ou c'est la taille du texte. Et si les deux choses ne vont pas bien ensemble, ben, il va falloir modifier l'une d'entre elles pour l'ajuster à celle qu'on va choisir de garder fixe. Et de même, enfin, moi, je ne vais pas faire état de ma propre histoire parce qu'elle est représentative de rien. Et donc, ça ne sert à pas grand-chose que je fasse des références à cela. Mais d'une certaine manière, je rejoins ce que disait, ou ce que je crois avoir aussi interprété de ce que disait Thierry Hoquet tout à l'heure. En le formulant à ma façon, au sens où une thèse, ben, chers amis, c'est un exercice scolaire. Je suis désolé. Donc, on ne va pas prendre les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Je vous rassure tout de suite, il y a tout juste un mois, j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches. Je considère que ça aussi, c'est un exercice scolaire. C'est toujours le pénultième. Hein ? Il y en a toujours un, quelque part, qui vous attend. Jusqu'à la retraite. Et peut-être que la retraite, ce sera le dernier. voilà, par exemple. Par exemple. Mais par conséquent, cette affaire du financement obligatoire pour pouvoir s'inscrire, à mon avis, peut être perçue, ce serait ma tendance, mais je me trompe peut-être, comme une fausse pression vers une professionnalisation qui est en fait un leurre. D'une part, parce que ce n'est pas parce qu'on est payé qu'on est un professionnel nécessairement, et d'autre part, parce que ça participe au fond de quelque chose qui revient à faire des économies. Puisque je suis sûr, je n'ai pas fait les calculs, mais je suis sûr qu'un étudiant qui fait sa thèse en 8 ans revient plus cher au budget public que celui qui est payé pendant 3 ans, le premier n'étant pas payé, parce que un étudiant ça coûte cher de toute façon. Donc au fond, la réflexion, et j'y reviens, à mon sens, à conduire, c'est quel est le statut de la thèse. Vous savez, je travaille sur des universitaires du 16e et 17e siècle, en particulier des médecins. Pour eux c'était clair, c'est une page, une thèse, une page. C'est un exercice scolaire, ça se fait en 3 mois. C'est juste pour donner lieu au banquet qui suit. Parce que c'est là où on est accepté dans le milieu, parce qu'il y a tous les docteurs autour et qui vous disent bienvenue au club. Ça sert à ça, non pas à faire des choses particulièrement originales, ni brillantes, ni à faire des apports de connaissances. Ça se fait après, éventuellement, si on a l'occasion de le faire, ça arrive 2 ou 3 fois dans une vie. Donc, ne pas surestimer l'exercice est un premier point, mais bien sûr, je ne sais pas à vous que je dis ça, parce que vous êtes comme nous tous pris dans des systèmes qui sont à la fois de marché, économique et bureaucratique, à la fois, et donc du coup, c'est tout sauf évident et facile de naviguer dans ces affaires-là. Mais je pense que c'est éventuellement la tâche de ceux qui, en France en particulier, avons la chance d'être installés, si je peux utiliser, de conduire cette réflexion et, le cas échéant, ce combat. Dernier commentaire, et je déteste le faire, parce que je déteste passer pour le tiers-mondiste de service. Mais sachez quand même que, malgré toutes vos doléances, vous vivez dans le luxe. Sachez-le. Hein, aussi.
Si je peux me permettre, j'aimerais revenir sur un autre point que vous avez abordé, qui va dans le sens un peu des injonctions contradictoires que vous avez mentionnées, etc. Oui, je suis assez d'accord avec cette idée de ne pas perdre de vue que voilà, on vit quand même dans des sociétés où on a des... par rapport au choix dont vous parliez, en disant on hésite en France entre le modèle post-doc à la états-unienne transféré en Europe et le vieux modèle à terre, etc. Mais en fait, nous sommes, me semble-t-il, un des derniers pays où les postes de titulaires sont des postes pérennes. Autrement dit, à partir du moment où on réussit un concours de la fonction publique, on est fonctionnaire, a priori, jusqu'à la retraite. Et je pense que c'est très précieux. Et je pense que l'introduction des post-doctorats en sciences humaines est une catastrophe. Parce que c'est un décalque du modèle des sciences de la nature, où on fait une thèse en 3 ans max, bien plus tôt qu'on ne le fait en sciences de l'homme, pour X raisons, parce qu'en tous les cas, longtemps, les gens ont fait d'autres choses avant, parce qu'ils ont passé des concours d'enseignement, parce que je ne sais quoi, etc. Donc, bilan, de toute façon, les gens n'ont pas le même âge, et qu'en plus, le nombre de post-doctorats en sciences de la nature n'a rien à voir avec ce qu'il est en sciences de l'homme. Donc, exiger dorénavant, comme je l'entends parfois dans les comités de sélection, que les gens soient passés par un post-doc pour les recruter comme maître de conférence ou comme chargé de recherche au CNRS, etc., je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est le meilleur moyen de dire on recrute les gens à partir de 40 ans. C'est-à-dire un moment où leur vie personnelle a explosé, parce que de toute façon, ils sont allés 1 an à Sydney, 2 ans en Argentine et 3 ans je ne sais pas où, et ils ont fait 3 burn-out. Bon. Ok, on en connaît des comme ça. Et j'ai pour avoir des relations relativement étroites avec les universitaires allemands, je vois bien des dégâts. C'est-à-dire que dans le système allemand, on est dans un système hyper financé, où il y a énormément d'argent. Et tout cet argent est injecté dans que du précaire. Et donc les gens attendent et sont esclavagisés jusqu'à 45 ans. Sur 10, il y en a un demi qui a peut-être une chance d'être élu professeur docteur une fois qu'il aura larbiné, il n'y a pas d'autre mot, auprès de la personne en poste pour peut-être espérer d'avoir larbiné davantage que les autres à côté. Hein ? Et c'est le système... C'est un système très pervers parce qu'il est à la fois très doté et en même temps très précarisé. Et ça fait avec l'idée que plus on est précaire, plus on travaille, plus on publie. Plus on publie vite, plus on fait d'articles par an, etc., etc. Donc plus on correspond à ces normes. Donc si je peux me permettre un petit conseil, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment encourager, dans l'alternative que vous présentiez, la pente post-doc. Très bien, je trouve ça très bien d'avoir d'expérience à l'étranger, je trouve ça très bien de se confronter à d'autres manières de faire, etc. Peut-être peut-on le faire autrement que par le biais de post-doc, et de manière générale, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie à suivre. En tout cas, quand on voit les files d'Italiens et autres nationalités, je prends l'Italie parce que j'y pense, parce qu'effectivement c'est massif, dans les concours du CNRS, on se dit que c'est peut-être pas... que peut-être qu'on est encore attractif par un autre modèle, alors peut-être aussi un vieux modèle, mais qui crée peut-être un peu moins de burn-out.
Si je peux dire une chose, je voulais dire, Thomas, personnellement, mais d'autres parmi nous, nous n'avons pas abordé les problèmes que vous soulevez, simplement parce que ce n'était pas les thèmes de notre intervention. Mais je vous rappelle qu'un éminent professeur de Bordeaux, présent dans cette salle, et que vous connaissez bien, la première fois que j'ai rencontré, c'était à une réunion de la Société française d'histoire des sciences. Il était jeune doctorant. Il a dit, vous, les membres de la société, qu'est-ce que vous faites pour notre futur? Et il a fait une bagarre que j'ai partagée complètement. C'est un problème fondamental, celui que vous soulevez. C'est un problème politique. il ne faut pas attendre que les collègues seniors, que les universités, c'est un problème vraiment de politique. Par exemple, le fait que je ne connaissais pas que à Cuiré, on peut être doctorant sans être financé et ailleurs, il faut l'être, même dans un pays primitif comme l'Italie, c'est inacceptable. Parce que ça introduit des différences entre citoyens. Et ceux qui n'ont pas l'argent, pardon, ceux qui ont l'argent, puis on l'enlève et sont coupés, c'est vraiment une limitation des droits personnels. En ce qui concerne ce que disait Wolf, il a parfaitement raison. J'évoquais auparavant, très rapidement, que j'ai siégé dans un comité CNRS italien pour les recrutements, et je vous dis de ce jeune Italien qui vient de tout le monde. Il vient précisément pour les raisons que Wolf dit. Ça veut dire qu'ils sont des gens qui ont fait 4 post-docs dans 4 continents, mais même en Angleterre, les post-docs ne produisent plus les postes permanents. Donc, c'est une fausse image. Ce que tu disais auparavant, ça veut dire que est-ce qu'on va ailleurs ou on reste ici et on reste lié à un réseau? Malheureusement, je dois dire qu'il faut rester lié à un réseau. Malheureusement, parce que peut-être on limite un petit peu les propres horizons intellectuels, mais donner à César ce qui est à César. Donc, je ne vois rien de mal d'être lié à un réseau, mais donner à la recherche ce qui est à la recherche. Donc, les faire ça. Parce que sortir, on ne rentre jamais. Moi, à mes jeunes collègues italiens à Oxford, j'ai la file hors du bureau qui vient me poser des questions. Le cas italien, c'est simple. Allez, sortez, fini, saluez les pays, allez dans tous les mondes, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a tout. Malheureusement pour la France est plus sympathique et donc les gens viennent ici. Mais il y a une émigration énorme. Parce qu'en Italie, la politique ne veut rien faire, ne peut rien faire. L'université italienne a perdu 10 000 professeurs et 400 000 élèves dans les derniers 5 ans. Donc l'État est en train de fermer, c'est notre problème. Mais je dis, la solution, c'est vraiment la politique. Ce que vous avez dit a montré à moi, que je ne connais pas dans ces détails votre situation, une différence que je ne crois pas être légale. Une différence de traitement entre différents cas de figure qui d'un coup, un point ou un autre, va contre les droits des individus. On ne peut pas être traité dans un état des droits d'une façon tellement différente. On ne peut pas dénier à une personne le droit d'avoir une éducation et à l'autre la donner. Donc c'est politique, c'est à vous de la résoudre. Nous pouvons, les vieux, bon, moi je ne suis pas en France non plus, mais nous pouvons seulement vous soutenir. Mais c'est votre futur. Et la politique, c'est l'unique façon dans laquelle on peut faire quelque chose. Autrement, il n'y a personne qui va penser pour vous. Ou vous pensez pour vous-même, ou n'attendez pas que quelqu'un pense pour vous. Il y a pas mal de collègues qui vont bien sûr répondre avec sympathie à vos demandes. Ah, ça c'est clair, c'est évident. Mais il faut aussi une action politique dans les pays dans lesquels on vit. Parce que pas mal de ma génération ont vécu dans l'idéal qu'ailleurs c'était mieux. Ailleurs, c'est ici. Ici, c'est votre ailleurs. Et donc, il faut... Et c'est un beau ailleurs, comme le disait Raphaël, c'est parmi les ailleurs dans lesquels on peut vivre, oui, il y a des difficultés, mais c'est pas mal.
Juste pour une petite pour reprendre. Précision, à titre informatif, pour éviter tout malentendu, il n'y a pas de doctorat du Centre Cuiré. Hein. Au Centre Cuiré, on accueille des doctorants qui, eux, sont inscrits, par exemple, et surtout à l'EHESS, parfois financé, parfois non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctorat du Centre Cuiré. C'est juste pour pas avoir comme ça les foules qui s'y précipiteraient rue d'Amem. Non,
je m'exprime.
Oui, j'espère ne pas avoir fait l'apologie du modèle allemand. Enfin. Pas spécialement. Je voulais souligner une tension qui me semble assez intéressante sur la nature du doctorat et du post-doctorat. Le modèle allemand a tout un tas de défauts qu'on peut effectivement constater quand on voit des collègues qui ne peuvent pas passer leur habilitation et qui sont contraints d'abandonner à 40 ou 50 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer paradoxalement que la France, qui est un pays extrêmement privilégié en termes de nombre de postes permanents, même si la plupart sont dans des universités et ont des conditions de travail peu comparable avec les autres. Mais il y a un certain nombre de paradoxes sur le système français dont il est aussi intéressant de parler. L'inégalité face au doctorat qu'on vient de souligner est intéressant, puisque derrière cette normalisation à 3 ans du doctorat en sciences humaines se cachent aussi des inégalités criantes, puisqu'on sait par exemple que maintenant on fait des pré-doctorats. Et donc que des personnes, si par exemple on a été dans le bon laboratoire de l'école normale supérieure, pour ne pas dépasser les 3 ans, on a un pré-doctorat ou on a un contrat qui ne compte pas dans les 3 ans pour sélectionner un sujet, on commence à se faire de l'expérience, etc. Donc la question n'est pas tant d'opposer un modèle allemand à un modèle français, mais d'essayer de constater ce qui est aussi à l'intérieur du modèle français fait que, malgré le fait qu'on est en histoire des sciences, on a peut-être autant de postes en France que dans le reste de l'Europe, par exemple. C'est quelque chose d'assez remarquable. Les choses ne tournent pas comme elles pourraient tourner. L'exemple allemand qui moi me semble, enfin je suis historien des mathématiques, l'histoire des mathématiques en Allemagne c'est terrible. C'est du temps de la rivalité entre l'Est et l'Ouest, il y a eu un nombre de chairs incroyables. À la chute du mur, ils ont tout fermé. Mais la société allemande d'histoire des sciences, par exemple, a une activité incomparable avec la société française d'histoire des sciences. Je ne veux pas taper sur la société française d'histoire des sciences. Je suis assez mal placé pour cela, mais il faut remarquer ce type de paradoxe. J'aurais pu prendre la société d'histoire des sciences anglaise ou autre. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle ici, c'est de remarquer toutes les tensions et toutes les complexités à l'intérieur de ce modèle qui sont plus compliquées que de simples problèmes techniques. Et c'est pour ça que quand vous parlez de la nécessité d'avoir une approche politique de la chose, je pense que vous avez tout à fait raison.
Si je peux me permettre une petite remarque, on parlait de la diversité des pratiques, du pluralisme. Je pense que de temps en temps, ça serait bien qu'on se retrouve tous dans la même chapelle. Et par exemple, alors, cette réunion à l'espace Mendès France est fabuleuse pour ça, d'ailleurs, on vous remercie. Et au-delà de ça, d'un point de vue disciplinaire, ce serait par exemple bien, je lui avais dit en rigolant, mais l'European Society, quand vous participez au congrès, ils vous inscrivent d'office pour 2 ans dans l'European Society, en fait. Et c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre comment, par exemple, tous les doctorants qui font de l'histoire des sciences en France, ou de l'histoire des savoirs, ne sont pas inscrits à la Société française d'histoire des sciences, par exemple. C'est-à-dire que c'est une entité qui existe, donc on pourrait s'en emparer, la faire vivre, et avoir quelque chose qui nous permet de nous rassembler, entre guillemets, sous le même toit, et d'avoir, même si on a des pratiques très différentes, qu'il y a ce pluralisme qui est génial, d'avoir un endroit où on peut se retrouver, et à un moment donné, discuter de ce qu'on fait et sort. Enfin, bref, voilà. Parce qu'on est déjà un peu.
Juste une toute petite accroche, parce que je vais être encore plus ambitieuse que toi, Benjamin, vu que je viens d'histoire. Et je pense que les historiens, on a les mêmes soucis que les historiens des sciences. Moi, j'ai interrompu ma thèse, j'avais pas de financement, je voyais pas. Et après, j'ai vu aussi l'arrivée de la contrainte, justement, de devoir terminer en 3 ans, même sans financement. Enfin, parce que c'est aussi. Non, mais parce que ça, l'école doctorale, au bout d'un moment, même quand tu n'as pas de financement, elle peut exiger, dire non, on ne renouvelle pas, même si on est dans un statut précaire. Donc, on enchaîne les vacations, etc. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une union des doctorants de sciences humaines et sociales, de manière générale, qui devrait être faite. Donc, une réunion encore plus massive. Et justement, aussi, ce que j'ai vu arriver, et ça se voit sur toutes, mais ça se voit aussi en histoire, c'est le postuler à des thèses, comme en biologie, avec des sujets extrêmement fermés et qui c'est extrêmement problématique en termes de construction de la pensée et d'évolution de la pensée.
Oui, donc j'ai été président de la Société française d'histoire des sciences pendant 8 ans, hein, pendant la première décade ou décennie, je ne sais jamais. Les 10 premières années de ce siècle, pendant lesquelles on a mis en place les journées jeunes chercheurs, qui correspondaient très précisément à l'objectif que vous évoquez. Alors, cela étant, c'est une association, selon la loi 1901, qui n'a pas d'autres ressources que les cotisations de ses quelques modestes adhérents, pas de subvention de qui que ce soit. Juste à quoi s'ajoute, ça c'est presque anecdotique. Je veux dire, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Quand on n'a pas de moyens, on n'a pas possibilité de faire de publicité. Donc on n'a pas d'adhérents, donc on n'a pas de moyens, cercle vicieux. Bon. Mais ce qui est, ça, c'est à la limite, c'est anecdotique. Un jour, on souhaitait développer nos liens avec une institution particulièrement prestigieuse qui est l'Académie des sciences. J'allais dire royale des sciences parce que je travaille sur le XVIIe siècle. Mais elle n'est plus royale, mais elle est toujours l'Académie des sciences.
On ne sait jamais.
Donc, Donc, justement, c'est ce que je vais raconter. Je rencontre un homme que tout le monde estime et qui est décédé récemment, Jean-Pierre Cahane, hein, qui était donc mon interlocuteur pour essayer de créer des liens. Et la conversation qui est une extrême courtoisie, évidemment, comme il se doit entre universitaires, et avec, en plus, lui, moi je ne suis pas, mais lui académicien, a tourné court parce que très très vite, il m'a fait aimablement remarquer que dans les milieux scientifiques sérieux, on commençait un peu à en avoir assez de tous ces gens rassemblés dans les sections 70 du CNU, c'est-à-dire sciences de l'éducation, sciences de l'information et histoire des sciences et des techniques, hein, 70, 71, 72. Donc pour lui, 70, 71, 72, c'était des disciplines que l'on avait tendance à imposer dans les universités au détriment des savoirs sérieux. Hein, et donc, c'est tout, la conversation s'est terminée sur ce point-là. Alors ce que je veux dire, c'est que symboliquement, au-delà de la personne tout à fait estimable de Pierre Cahane, ce qu'il représentait dans son discours, c'était quelque chose de dominant dans le monde universitaire et le monde de la recherche français, c'est que ce genre de société, d'histoire des sciences, c'est pas intéressant. La société des physiciens, la société française de physique, la société française de chimie, la société française de mathématiques, oui, parce que c'est physique, chimie, mathématiques. Mais société française d'histoire des sciences et des techniques, non, parce que c'est un truc... qui sert à rien.
C'est-à-dire que moi, quand je proposais qu'on s'en empare, c'était pour nous-mêmes, en fait. À la limite, l'extérieur, je veux dire, on s'en fiche, mais c'est pour nous. C'est, symboliquement, je lui avais fait une proposition en rigolant un peu hier soir autour d'une bière, c'est de dire, tous les labos, quand un doctorant s'inscrit, commence une thèse, tous les labos pourraient dire, je sais pas, on pourrait dire que pour un doctorant, la cotisation, c'est 5 euros. Tous les labos, quand un doctorant s'inscrivent, payent la cotisation à la Société française d'histoire des sciences et des techniques en disant « Bienvenue, vous faites partie du clan, si vous voulez chercher les gens qui vous ressemblent, c'est là ». Et c'est juste une manière de une forme de marque pour dire on appartient au même troupeau. Quoi. C'était juste ça. C'est-à-dire, finalement, ce que l'extérieur va en penser, c'est pas grave, c'est juste pour qu'on puisse se reconnaître entre nous et qu'on puisse échanger, discuter. Voilà.
Point d'éclaircissement. Donc vous dites que le problème, c'est la cotisation.
Non, c'est pas la cotisation. C'était juste pour avoir une proposition symbolique. 5 euros, c'est pas, je veux dire, c'est pas ça. C'était l'idée de ou que ce soit le doctorant. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'inscrit en thèse et qu'on entre dans un labo, que ça devienne presque un réflexe qu'on nous dise il y a la Société française d'histoire des sciences et des techniques. Ça serait bien que tu y adhères parce que c'est l'endroit. Enfin. Mais ça peut être une. Enfin, je dis à Société française d'histoire des. Je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais ça pourrait être une autre société qu'on pourrait créer. Je veux dire, il n'y a pas de. Ça pourrait être la Société d'histoire des savoirs. Je veux dire, c'est juste un toit sous lequel se rassembler. Il n'y a pas de. J'ai pas de paroisse particulière.
Et pour reprendre juste un petit peu sur ce que disait Bernard Joly, le témoignage est intéressant. La société, par définition, n'a que les cotisations de ses adhérents et n'a que les forces. Des membres de son CA. Et c'est pour ça, pour reprendre le paradoxe, que quand on compare la Société d'histoire des sciences allemande, qui n'a elle aussi que les cotisations de ses adhérents, dans un milieu où les chairs se comptent sur les doigts des deux mains, pratiquement, si on exclut le Max Planck.
Il n'y a pas de chair en Max Planck.
Bah, il y a quand même quelques permanents. Mais...
Trois permanents.
Non.
Trois permanents.
Bah, il y a les trois directeurs.
Ouais, c'est tout.
Bah, non, quelqu'un comme Ursula Klein, par exemple. Ouais. Et permanente.
Un ou deux cas, s'ils sont quatre ou cinq maximum. Tout le reste, c'est que du temporaire.
Ah, tout à fait.
Avant, il y avait Fernando, ok. Voilà. Mais il a été remplacé. Et c'est tout. Le Max Planck fonctionne comme ça. Il faut arrêter de nous berner avec le Max Planck.
Et donc, de voir le fonctionnement de la Société allemande d'histoire des sciences, c'est quand on compare avec la France, on a probablement peut-être autant d'historiens des sciences que le reste de l'Europe. Et n'importe qui a été dans le CA de la société voit que ça tourne avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire que pour faire l'infolettre, pour organiser les journées jeunes chercheurs, pour organiser les prix de thèse, pour ça tourne avec...
300 personnes à
des colloques. Ah oui, il y a trop... Ça, c'est super. Mais...
Grâce au soutien de l'espace en
France. Exact. Ouais, et du coup, c'est admirable. Mais quand on voit, par exemple, juste avant que Michel Cotte reprenne la direction, la quantité de travail que pouvait abattre quelqu'un comme Stéphane Tirard, qui, en plus de ça, était responsable d'un centre d'histoire des sciences de province, en plus de ça, était enseignant avec des services, voilà, et était responsable de l'infolettre, des journées jeunes chercheurs, de tout ça. C'est cette matérialité du travail de l'histoire des sciences d'aujourd'hui qui conditionne forcément son avenir.
Son poids
politique aussi. Puisque une société qui est faible, c'est une discipline qui existe peu.
Oui, moi je voulais juste faire l'écho assez vite sur la SFHSH, Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Oui. Wolf et Emmanuel compléteront éventuellement. C'est un peu le même constat, c'est-à-dire qu'on organise des journées. On a organisé un grand colloque qui a été plutôt un succès, on va dire. Mais c'est vrai que c'est artisanal, quoi. On fait ça de façon artisanale. On trouve des financements. On a eu quand même quelques financements. Voilà, mais... Alors, je ne sais pas s'il faut regretter trop quelque chose qui serait une grosse machine, hein, parce que, moi, je ne sais pas, par exemple, le Max Planck de Berlin, je ne l'idéalise absolument pas. Personnellement, je trouve que c'est une annexe des États-Unis, en partie. Non, mais c'est vrai, c'est une annexe de l'Université de Chicago, et si vous passez au Max Planck, vous allez pouvoir ensuite, éventuellement, si vous êtes bien gentil, publier à Chicago University Press. Je schématise beaucoup, mais c'est pour ça que moi, je ne prends pas ça comme modèle, hein. Alors, je ne prends pas comme modèle les sociétés françaises. Je crois que Bernard Joly serait d'accord avec moi sur l'idée du caractère un peu artisanal de nos sociétés. Moi, je les aime bien. Elles ont l'avantage qu'il n'y ait pas trop de rapport de pouvoir dedans. Mmh. Ça, c'est un avantage. C'est-à-dire que comme on est un peu des gens marginaux et sans pouvoir, à la limite, c'est plutôt sympathique. Voilà. Mais bon, je reconnais que c'est la contrepartie. Je ne recommande pas du tout ce modèle. Je fais juste un petit constat. Peut-être que Wolf et Emmanuel rajouteront d'autres choses. Voilà.
Tout au contraire, à mon avis, s'il y a une façon dans laquelle les jeunes, pas pour une vertu de la jeunesse, mais par le fait que les plus intéressés, c'est à la fin de la journée vous, dans un sens bon du terme. Donc, si vous pouvez faire de façon qu'il y a une mobilisation, une information de vos collègues, je suis sûr que la société accueillera tout ça très très bien, et tu le sais bien, bien sûr.
Juste de montrer rapide, le premier, c'est que tout ce qui vient d'être dit là depuis quelques minutes montre bien qu'il n'y a pas de modèle français. Cette idée, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de modèle, il y a des pratiques. Mais il y a un modèle dans les discours plus ou moins fictifs que l'on peut tenir sur le dit modèle qui existerait. Mais en réalité, l'histoire de l'Académie des sciences se heurte quand même pas mal avec d'autres types de pratiques. L'idée des modèles en général, français ou autres d'ailleurs, me semble pas intéressante, justement pour bien percevoir comment les choses concrètement fonctionnent. Et vous venez de décrire, on vient d'échanger très concrètement, et c'est là, à mon avis, l'intérêt le plus grand. Ensuite, je suis persuadé que ce que vous proposiez par rapport à la Société française d'histoire des sciences et des techniques serait très bon pour la société. Je ne suis pas persuadé que ce serait très bon pour vous. Pas mauvais non plus. Mais je suis plutôt de l'idée d'Héloïse. Ben, qu'est-ce que ça veut dire les doctorants en histoire des sciences? Rien. C'est les doctorants, point. Je veux dire, parce que vos problématiques ne sont pas spécifiques à ceux qui font des thèses en histoire des sciences.
Je parlais pas simplement, je parlais pas pour les doctorants en fait, je parlais pour l'histoire des sciences en général, mais ça peut être comme je dis, l'histoire des savoirs. Mais l'organisation des doctorants dans un côté.
C'est... Après le nom de mais je veux dire que les doctorants en sciences humaines et sociales, tout domaine, toute discipline confondue, je pense que les problématiques ne sont pas forcément très éloignées de celles que vous venez d'exposer. Donc je suis persuadé. Me tromper, évidemment, que vous auriez plutôt intérêt à aller à élargir la surface des choses de ce côté-là plutôt que ce n'est pas exclusif. Hein, vous pouvez aller du côté
ça
de
peut être les deux. Majesté.
N'allez surtout pas à la Société française d'histoire de la médecine, je vous en conjure.
Hein?
Parce que pour l'histoire des sciences,
ce n'est pas contradictoire.
L'histoire des sciences, c'était plus d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue conceptuel. Je veux dire, les journées des jeunes chercheurs en histoire des sciences, pour ceux qui ont eu la chance d'y participer, c'est génial parce qu'on entend des gens qui ont des démarches très différentes et on a des. Je vais citer des noms que tout le monde connaît. Moi, j'ai fait une communication un jour devant la journée des jeunes chercheurs. J'ai eu Renaud Denfert qui m'a fait deux remarques sur ma communication, qui était quelqu'un que je n'avais pas eu l'occasion de croiser. Renaud Denfert, qui est un chercheur dont on a une très grande compétence. Et ses remarques ont été tellement... Enfin, ça a été très pertinent. Et j'ai vécu comme un moment d'enrichissement. Et c'est vrai que quand on est de province, ça permet de discuter de...
C'est la même chose, c'est toujours l'occasion de... Enfin, surtout quand on est dans une université de province en histoire des sciences à Montpellier, c'est pas évident en fait. Donc quand il y a ces réunions-là, c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir y assister. Mais j'ai envie de dire, on pourrait discuter de ça vraiment extrêmement longtemps, du statut des doctorants, parce que pour le coup... Moi, je suis dans un laboratoire, donc plutôt en didactique. Hein, c'est surtout les problématiques du laboratoire sont surtout sur ces sujets-là. Et quoi que ça a changé, mais vraiment, qu'importe. ne serait-ce que pour réunir les doctorants du laboratoire, on se réunit seulement les trois sur qui ont un contrat. Les autres n'ont pas le temps de venir, ils travaillent, et on n'a pas le temps de rassembler des doctorants à une petite échelle. Donc forcément, après, à d'autres niveaux, qu'est-ce que le chercheur isolé, il existe parce qu'il y a d'autres, il y a tellement d'autres choses à faire que la recherche. Il n'y a pas le choix. En fait. Enfin, le système est fait de telle façon. Donc, les problèmes, il faut aller les chercher encore plus loin. On n'est même pas capable, au niveau du laboratoire, d'insister pour que les doctorants qui appartiennent à un laboratoire à Montpellier, donc qui habitent dans la région, puissent venir. Bref.
Modèle français ou bien pratique, qu'est-ce qui importe, quel est le rôle des institutions dans tout ça. Moi j'ai l'impression que, parce que j'ai été aussi en situation de m'investir dans les sociétés savantes françaises, je l'ai fait un peu avec Bernard, avec Anne, c'est ce qui nous a permis de nous connaître aussi. Mais en fait, globalement, quand on organise justement des journées doctorales de la SFHST, il y a les intervenants, leurs discutants, qui restent une demi-journée, etc. Il y a une désertification, en fait. Il y a une absence de mobilisation, une absence de motivation, qui tient à quoi? Moi, je pense que d'une part, vous avez parlé tout à l'heure de matérialisme, moi, je dirais qu'il y a un individualisme très fort. C'est ce que je voulais aussi discuter avec Pietro quand j'ai posé ma question sur les citations, c'est-à-dire, en fait... On est dans, c'est pas un individualisme que je condamne en tant que tel, je dis juste que c'est un système, en fait, c'est comme Bernard disait sur le capitalisme, c'est un système productiviste, en fait, où ce qui est valable, c'est la production, en fait. Peu importe de lire les autres et de discuter et de s'écouter, ce qui importe, c'est la production. Et donc un régime qui produit à outrance et qui ne vit que de la production. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et dans ce cadre de productiviste, il ne faut quand même pas minorer le fait que la France, ou en tout cas le français, compte pour du beurre. Aujourd'hui, on a des collègues au nom à consonance étrangère qui nous font voilà, l'honneur de parler le français tellement excellemment qu'on a l'impression que le français est une langue internationale. Mais en fait, on est, ce régime de production ou de productivisme, il est indexé, valorisé sur un système qui est anglophone. Et le Max Planck, c'est un, on parlait de Chicago, c'est un système anglophone, en fait. Donc, c'est ça aussi, pour moi, la désertification des institutions françaises, c'est aussi l'idée qu'il ne s'y joue rien d'important, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est de se situer à un autre niveau. La situation, elle est structurée de manière asymétrique. Tu parlais du rapport des étudiants anglophones états-uniens avec les autres langues tout à l'heure. Mais voilà, le système asymétrique fait que, il y a quelques années, j'étais passé à une journée inaugurale du Centre Coiré où vous discutiez, votre menu, c'était de discuter un manifeste écrit par un professeur d'Harvard, je crois, justement, c'est ça, avec une collègue, dont tout le monde disait que c'était nullissime, mais c'était ça qui était l'enjeu de la conférence inaugurale. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, l'asymétrie, elle est là, c'est-à-dire n'importe quel vent venu des États-Unis et vaut d'être discuté ici. Et ici, on aura beau faire à s'échiner à écrire des thèses en 800 pages en 25 ans, ou 1670, tu disais, voilà. Ça ne vaudra rien tant que ça ne sera pas un article en ligne en anglais de 3 pages. Donc, cette asymétrie-là, elle est pour moi angoissante en tant que français, en tant que francophone, et je veux remettre en avant justement ce que tu disais sur la polyglossie que nous devons adopter.
Mais ça c'est une question de, encore une fois, je pense que le mot que vous avez utilisé, l'idée de volonté politique, c'est essentiel. C'est-à-dire que vous me dites participer par exemple au congrès d'une société, imaginons une société qui rassemble tous les historiens des sciences de France, participer à ce congrès-là, ça n'a pas de poids par rapport à une publication en anglais. Mais qui siège ? Enfin, c'est pas pour vous mettre en... C'est pas, je veux dire, c'est vous qui êtes au CNU, pour ceux qui y sont, et qui peuvent dire, ben, on décide que dans les dossiers de candidature, quelqu'un qui s'investit dans la vie d'une société et qui participe à ce type de congrès, ben, ça a plus de valeur qu'un article publié dans une revue, dans une obscure revue en américaine, enfin, états-unienne en anglais, où personne n'a jamais lu l'article. C'est comme pour l'histoire de la thèse. Je veux dire, vous avez le pouvoir politique de dire... Dans la section 72, une thèse, maintenant, ça se fait en 3 ans. Si elle fait 300 pages, c'est une thèse valide, tant qu'il y a une thèse et que le travail, les rapporteurs, jusque ça. C'est-à-dire que c'est d'où l'intérêt, pour rebondir sur l'intitulé, de parler de l'avenir de l'histoire des sciences. Je veux dire, nous, on n'est pas encore dans le sérail, on n'est pas encore dans la machine pour la modifier de l'intérieur. Vous, par contre, pour ceux qui sont, vous pouvez décider que la publication soit en anglais ou en français, ça a autant de valeur, que la publication soit que ce soit une conférence faite devant telle assemblée, ça a plus de valeur. C'est vous qui avez ce pouvoir-là.
Et c'est également aussi au directeur de thèse de stimuler, d'insister auprès du doctorant pour qu'il s'investisse là-dedans. Il y en a qui le font d'eux-mêmes. Mais il y a aussi beaucoup de directeurs de thèse qui oublient d'insister sur ce rôle-là et sur cet investissement que doit avoir un jeune chercheur. Qu'est-ce qu'il connaît du métier de chercheur s'il n'est pas capable aussi de s'investir auprès de ses pairs et de réfléchir en communauté ?
Le pouvoir que vous nous accordez est très important, mais il est malheureusement fictif. Dans la mesure où l'histoire des sciences, par définition, elle est interdisciplinaire. Alors certes, il y a la 72e, mais la 72e, elle a très peu de postes fléchés, elle a très peu d'impact sur les recrutements effectifs. Et par ailleurs, qui dit interdisciplinaire dit rencontre de critères différents. Et déjà, à l'intérieur de la philosophie, par exemple, qui est une toute petite partie de la section 35, on voit les conflits entre les analytiques qui valorisent les articles, les Européens continentaux qui valorisent le livre. Et on voit déjà l'impossibilité de se mettre d'accord à l'intérieur d'une micro-discipline complètement dérisoire sur ce qui vaut véritablement en tant que travail de recherche. Et vous nous dites, mettez-vous d'accord et valorisez quelque chose. Il y a une historicité des normes, des valeurs, des critères, et il y a des conflits, des rapports de pouvoir, comme disait Wolf.
Alors, malheureusement, je crains que nous ayons à finir, à clore au moins temporairement la discussion. Je pense que c'était très important d'avoir cette conclusion finale.
Donc je ne sais pas s'il faut relire un texte publié en 1848 et qui commençait par « Doctorants de tous les pays, unissez-vous ». Mais en tout cas, il me semble qu'on doit vous remercier beaucoup d'avoir mis sur le tapis ces questions pour une fin de journée qui a été décloisonnée, ou le fait que la discussion ait tout de suite pris au-delà de vos interventions. Ça a peut-être mangé un peu sur vos interventions, mais en tout cas, ça, je pense que c'était stimulant pour nous tous. Diriger une thèse, c'est une grosse responsabilité. Prendre en direction une thèse, décider qu'on va soutenir, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne la mesure, que ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, que c'est une implication, que c'est aussi un enjeu existentiel pour vous. Mais effectivement, je pense qu'aussi, il est important de se souvenir qu'une thèse, voilà, c'est un exercice, que ça se clôt, que c'est jamais bien. C'est-à-dire que dès qu'on relit sa thèse, sa propre thèse, enfin, déjà si on arrive encore à la relire, enfin, moi j'en serais bien incapable, et que... voilà, donc ça permet peut-être, ce n'est pas une solution, mais ça permet peut-être de prendre un peu de distance par rapport aux choses et, voilà, et se dire, bon, bah voilà, c'est ce que c'est peut-être en 3 ans et c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais au moins, c'est pas une frustration éternelle de ne pas l'avoir fini. Mais en tout cas, merci beaucoup et surtout, merci beaucoup à l'Espace Mendès France pour l'accueil, pour la générosité. Merci.
On s'applaudit pas nous, on applaudit l'Espace Mendès France. T'as pas écouté?
Moi, je vais pas devoir.